Et pour finir, la partie portugaise, le beau gosse dont tout le monde nous envie, c'est Pierrot.
Bonsoir.
Donc on va d'abord parler Ligue 1 et le match en particulier. On va d'abord commencer par les deux matchs Paris-Valenciennes et Marseille-Nancy. Marseille-Nancy, on en parlera un petit peu après, mais surtout Paris-Valenciennes. Raconte-nous ce qui s'est passé cet après-midi, hein. Comment Paris a pu perdre ce match. Après, je ferai ma petite déclaration d'amour à Valenciennes qui, en deux semaines, m'a totalement... totalement exaspéré, donc mais je te laisse présenter ça avec un petit peu l'ambiance qu'il y avait au parc cet après-midi.
Eh bien, il y avait déjà une très bonne ambiance au Parc des Princes cet après-midi. Bon, bah ouais, on a fait match nul de partout. Bah, le score n'est pas vraiment mérité puisque les Valenciennes ont eu deux actions, à peu près ont mis les deux buts, quoi. Après, bah, un but est refusé pour le Paris Saint-Germain d'une frappe de Cessegnon de 25 mètres. 20-25 mètres qui rentre, qui touche la barre, qui ensuite rentre. L'arbitre ne valide pas. On va pas refaire le débat de la vidéo, etc., etc. Mais bon, Laïc dit qu'il ne voit pas la balle rentrer. Même moi, dans les tribunes, je vois qu'elle rentre. Enfin bref, je vais pas m'énerver sur ça. Ensuite, bah sinon, on a vu un bon match du côté de Paris qui a bien poussé. Un très bon match de Makelele notamment, qui est vraiment je crois a fait son meilleur match sous les couleurs parisiennes cette année. Sinon, une première mi-temps vraiment embêtante, mais vraiment embêtante, aucune action des deux côtés à part le but de Waro qui est magnifique.
Bah et puis sa tête qui est signalée comme hors jeu, mais je demande encore.
Voilà, j'ai pas revu les images.
C'est très litigieux. Même moi qui était devant ma télé, je pouvais encore me demander s'il était effectivement hors jeu. C'est un petit peu comme l'action, si tu te rappelles, contre Le Havre, où il y avait une partie de son corps hors jeu et l'autre non.
Exact. Ouais. Donc j'étais pas sûr qu'il soit hors jeu. J'ai pas vu hors jeu sur cette action, donc je peux pas en reparler. Mais j'ai douté un peu sur cette action en tout cas. Sinon, on a vu un Cessegnon un peu brouillon en première mi-temps, mais qui est revenu petit à petit un peu mieux dans le match avec c'est lui qui amène le deuxième but. Avec il fait une frappe, Pento Delis arrête la balle et ensuite c'est Sirotten qui la reprend du gauche et voilà, ça fait du bien la confiance pour Rotten parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué depuis l'OM, puis face à l'OM. Et il retrouve je trouve qu'il a plutôt pas mal joué ce soir. Un bon Rotten petit à petit, je trouve. Voilà.
Ok. Ce que j'ai trouvé aussi de très intéressant ce soir chez les Parisiens, ça a été surtout le milieu du terrain en première mi-temps et en milieu de seconde période qui a totalement en fait maîtrisé la partie. Alors on leur reprochait souvent de jouer qu'en contre. Là, Paris a encore témoigné d'une belle puissance collective et ça a l'air de se mettre en place au fil de la saison d'une manière de plus en plus intéressante. Et je pense que le Paris Saint-Germain, si en plus que leur force de contre qui est toujours présente arrive à mettre des buts très bien construits comme on a pu le voir sur le but de Haro, c'est effectivement un but très bien construit. Ouais. Je pense que Paris va pouvoir vraiment viser des sommets ou même le deuxième but qui est aussi magnifique dans sa construction. Bon, Rotten vient conclure l'action comme un but à la FIFA où il n'y a plus de gardien et il la pousse au fond. Mais on voit quand même une belle puissance collective, on voit pas que des buts en contre-attaque.
C'est vrai que derrière moi, le PSG joue en contre. Enfin, derrière moi, le mois dernier, par exemple, on joue souvent en contre face à des équipes comme Lille, des trucs comme ça. Et là, je trouve que c'est vrai qu'on construit un peu mieux les actions. Et pourtant, Valenciennes est une équipe très dure à jouer qui joue à 11 derrière, quoi. Et donc, je veux dire que la construction du jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui est plutôt intéressante, je trouve.
Ok. Sinon, je voulais quand même dire un petit mot sur ces Valenciennois qui ont quand même une horrible réussite depuis deux matchs. Contre Monaco, on a cru que c'était Barcelone qui jouait. Ce soir, Ils ont deux occasions, ils marquent deux buts, dont le deuxième, c'est vraiment la réussite dans toute sa splendeur. Donc, quand je vois comment le comportement de cette équipe-là en deux matchs, je me dis vraiment que c'est des équipes qui faussent le championnat parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre un point au cours de tout le début de saison. Et là, elles viennent d'en empocher quatre en deux matchs. Bon, ceux de Monaco ne sont pas forcément immérités, mais quand on voit le déroulement du match, on aurait remplacé les joueurs par Messi et par Eto'o. On aurait presque cru que c'était la même chose, tant le collectif de Valenciennes et les buts qu'ils mettaient, c'était extraordinaire. Donc, ça me...
Oui. Ouais, vas-y, fini.
Non, mais c'était juste que je voulais dire que quand même, quand je vois des supporters et même l'entraîneur de Cambori qui se satisfait d'un tel résultat, ça m'énerve au plus haut point avec un arbitrage qui a été totalement en faveur de Valenciennes. Hein, ça, on peut pas le reprocher. Ah, oui. L'attitude kyrielle de vouloir voir les petits clubs déplacer les gros, je veux bien, mais il y a quand même une certaine limite. Faut pas non plus que cette influence. Que cette influence que se trouve Styriès depuis quelque temps sur les arbitres se traduise sur les terrains comme cet après-midi au Paris Saint-Germain.
Au début du match, Valenciennes commençait à, pendant les 10 premières minutes, il commençait à tenir le ballon. Je me suis dit, bah tiens, ça m'étonne un petit peu, et notamment ils ont eu une action, une tête de je sais plus quel joueur, avec un bel arrêt de Landreau. Je me suis dit, bah tiens, ça m'étonnait de la part de Valenciennes, mais dès qu'ils ont égalisé, ils étaient à 11 derrière et ça m'a agacé au plus haut point.
Oui, oui.
Et après le 2 partout, c'était la même chose. Ils sont restés à 11 derrière. Ils n'ont rien tenté. Et puis, bah, le deuxième but, on peut dire qu'il est un peu chanceux. Bon, Landreau se
trouve un peu, c'est rien de le dire. C'est un euphémisme.
Et ça m'a un peu énervé le comportement de cette équipe qui reste sans cesse en défense. Et enfin, ça. Comme tu dis, ça fausse un peu le match, quoi.
Et puis là, c'est pas en fait, c'est, là, on a découvert un peu un nouveau type d'équipe. En fait, c'est pas forcément une équipe qui va jouer à 11 derrière, bien que c'est certaines fois le cas. Mais alors, soit elle va laisser le ballon, ou alors elle va le garder. Mais j'ai calculé pendant 1 minute 30, à un moment, ils n'ont pas dépassé leur ligne médiane et ils avaient leur ballon entre Pento et ses défenseurs.
Comment? Dans la fin du match.
Oui, exactement. Ou alors, en début de deuxième période aussi.
Ouais, aussi, ouais.
Ouais, donc et c'est ça qui m'énerve, enfin bon, cette absence de
prise à la fin en plus du match, ils jouaient la montre, ça se voyait. À un moment, ils ont mis une minute avant de tirer un coup franc, ça se voyait qu'ils jouaient la montre, et ça, c'était pas très très correct de leur part, quoi. Enfin, ça m'a agacé. Cette équipe de Valenciennes m'a vraiment agacé.
Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Donc je vois qu'il y a un petit peu du mal avec moi. Ouais, je dis.
Enfin, une équipe qui fausse le championnat. Bon, les deux buts, moi je dirais qu'ils sont pratiquement offerts. Les erreurs de marquage, elles sont flagrantes. Sur le premier but, Armand, il se trouve sur une tête derrière Traoré et pas fichu de faire la couverture. Bon, après Mater, il met une bonne frappe. Mais alors, surtout le deuxième but, Landreau, il se repositionne pas et derrière on regarde. Donc, équipe qui fausse le championnat, faut éviter de faire des cadeaux aussi.
Je suis d'accord, mais c'est les deux seules actions qu'ils ont. La défense du Paris Saint-Germain sur les derniers matchs, elle était vraiment nickel. Et bon, le deuxième but, on peut pas dire, enfin, c'est quand même une erreur de marquage, c'est vrai, mais le ballon qui touche le poteau, qui revient sur Tiené, je crois, qui marque après, enfin, c'est quand même un peu de la chance. Enfin, on peut pas dire que l'équipe de Valenciennes mérite ce match nul, au contraire.
Ok. Un petit mot aussi, je voulais dire aussi sur le Paris Saint-Germain, que quand je vois encore un match comme ce soir, même s'il y a deux partout, je fais de plus en plus, et je le dis, Paris mon favori presque pour la troisième place, parce que Lyon semble intouchable, et peut-être Bordeaux derrière, mais moi je commence à exclure de plus en plus Marseille de ce podium quand je vois encore ce qui s'est passé cet après-midi. Mais j'apprécie vraiment la manière de jouer Paris et son homogénéité qui m'impressionne de plus en plus, et je suis sûr que même Bordeaux peut même avoir une certaine méfiance envers les Parisiens, car leur deuxième place n'est pas assurée si Paris continue à maintenir ce rythme là.
Pour reparler de Bordeaux, dans deux semaines, le 11 janvier, ce sera sera Bordeaux Paris Saint-Germain, donc ce match pourrait être décisif pour la suite du championnat. En tout cas, ça pourrait être une belle confrontation.
Ouais, Hugo.
Ouais, bon, moi, Paris, c'est pas trop confiant parce qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Bah, le meilleur, ils l'ont déjà prouvé. Le pire, c'était par exemple contre Rennes. Ça tenait la baraque.
Contre qui?
Contre Rennes.
Ah non.
Ah bah, moi, le match que j'ai ressenti, tu vois, c'était presque un non-match.
Le match face à Rennes? T'as regardé le match ou pas?
Ah, un peu. Pas tout,
Parce
parce
que
que
les
je m'étais
30
un peu
dernières minutes,
endormi.
si tu me dis. Parce que si les 30 dernières minutes, tu me dis que le Paris Saint-Germain n'avait pas joué, là je rigole, je te rigole au nez, quoi.
Ah, c'est
Ouais,
bien
parce que
normal,
Paris.
ils sont menés, ça serait normal qu'ils réagissent, quoi. Je suis désolé, c'est le but du joueur professionnel, quoi.
Bah, faudra peut-être
Ah,
les
non, mais
leur
attends.
apprendre à Valenciennes, je crois.
Ah, bah, Valenciennes, on parle de joueur professionnel, s'il te plaît.
Mais non, mais je suis pas complètement, je suis même pas du tout d'accord avec toi sur le fait que Paris n'est jamais passé au travers d'un match. On peut pas dire qu'ils ont été vraiment pires. Le seul peut-être non-match qu'ils ont fait, ça a été contre Toulouse, et encore contre Toulouse, c'était
Voilà.
vraiment
Toulouse, ouais.
ça a vraiment été ça a été un match bizarre, on va dire, après cette victoire au Vélodrome. Et on va dire la deuxième mi-temps contre Monaco, lors de la toute première journée, où Paris était complètement passé à travers. J'avais pas compris que
Même
Paris.
face à Grenoble aussi, on avait été pitoyable, je trouve.
Ouais,
Mais
enfin bon, c'était pas encore. Non, j'ai jamais trouvé Paris qui a été vraiment en dessous lors de certains matchs. Donc.
on a jamais produit le même niveau de jeu qu'à des matchs de la saison dernière, par exemple. Voilà.
Oui, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que quand on essaye de quand on essaye de dire que Paris peut être capable du meilleur comme du pire, on peut dire encore que Paris peut être capable du meilleur comme du moyen, on va dire, mais pas comme du
Moyen, ouais,
pire.
comme du moins
Voilà.
bon, ouais, voilà.
Voilà, pas du pire. Hein. Je suis désolé. Donc, pour ce match-là, t'avais quelque chose d'autre à ajouter, Adrien?
Non, non, rien de spécial. Bah, j'espère que cette match nul ne porte pas trop de conséquences au classement, même si on perd une place. Mais je pense que dans le jeu, ça m'inquiète pas trop et la victoire était largement à notre portée. Que ça m'a un peu déçu sur le coup, mais après on se dit que bah il y a un but refusé, etc. Mais bon, c'est pas grave.
Bah, et puis
On verra
avec
par exemple par la
un
suite.
match encore très 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 complet de Haro, oh, qui est
Ouais,
en train
exactement.
vraiment de faire le but qu'il met là. Ceux qui disaient que techniquement il était un petit peu limité, bah alors là j'aimerais bien les entendre après un but comme
La
ça.
Madjère qui fait en deuxième mi-temps, qui passe
Ouais,
à 2 cm du poteau,
exactement.
celle-là, elle est très belle.
Et puis le but, le même son coup de tête qui est
Ouais.
refusé, ce but là, le coup de tête est très 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 bien placé. Une tête croisée comme ça, franchement, Ouarou a encore montré de très très belles choses ce soir.
Même le but est beau, hein. Un contrôle de la poitrine et frappe directement, c'est magnifique. Enfin,
Ouais, non mais oui, Hugo.
Waro, la soir, bah, j'ai vu le résumé, j'ai trouvé qu'il a assez croqué, mais bon, c'est sûr que si on met le but qui est refusé à tort, bah il fait un bon match encore. Mais bon, là, il a la matière, je pense pas que c'est obligé parce qu'il pouvait faire un autre truc plus sympa, plus simple.
Ouais, non mais oui, mais ça prouve peut-être la confiance qu'il a. Je suis sûr que lors du match contre Caen en début de saison, il ne l'aurait pas fait. Et un joueur qui est en confiance comme Waro, ça plante 25 buts comme l'année dernière en Ligue 2, ce qui équivaut peut-être à entre 15 et 20 en Ligue 1. Donc si
Oh non,
Waro,
c'est
il va y arriver
25.
facile.
À
Comment?
mon avis, il peut y arriver. Il peut arriver à 17 buts, 18 buts à l'aise, hein,
Bah, en
Waro.
comptant qu'à la mi-championnat, il en est à 11, oui, largement.
Ah bien plus, hein, la moitié des équipes de Ligue 1 sont niveau Ligue 2, quoi. Donc Monaco, donc voilà, quoi.
On en parlera tout à l'heure. Donc, bah, pour ce match-là, on est d'accord. Un match encore où j'ai trouvé, pour une fois, je vais peut-être un peu critiquer Cessegnon. Je finirai là-dessus. Cessegnon a peut-être trop voulu créer l'exploit individuel.
Ouais.
Il était pas souvent à son poste sur le côté droit. Il a voulu repiquer souvent dans l'axe pour venir chercher les ballons. Donc, c'est un petit peu dommage, moi qui me plaisais beaucoup. Bon, il aurait pu rattraper son match sur sa magnifique frappe. Mais sinon, je sais pas, tu l'as trouvé
Ouais.
comment toi, Cessegnon?
Bah, c'est vrai qu'en première mi-temps, il est vraiment passé à côté de sa première mi-temps. Il a raté beaucoup de contrôle. Ça n'a pas été le session d'habitude, je trouve. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il s'est repris. Mais il a été moins bon que d'habitude, c'est vrai. Mais il a toujours la tendance à être un peu irrégulier, quoi. Bah, bon, j'espère que ça va se régler ces petits détails lors des prochaines journées, quoi.
Oui, Hugo.
Ouais, c'est dur de reprocher à Cessignon de faire un mauvais match contre Valenciennes, quoi. Surtout quand tu vois son match contre Twente, où il a été magnifique, et son dernier match contre Auxerre, je crois. Il a été énorme, donc faire un mauvais match contre Valenciennes, à mon avis, ça compte pas trop.
Et puis, bah, pas, Twente, je dirais pas qu'il, face à Twente, je dirais pas qu'il était énorme. Il a été bon, puisque il a mis son but, d'accord, mais il a joué que 55 minutes, on peut pas trop juger sur ça, quoi. Mais face à Twente, je l'ai pas trop exceptionnel. Face à Auxerre, là, il avait été vraiment très très bon. Mais face à Twente, dire qu'il a été bon, très bon, il met son but, d'accord. À part ça, il a été meilleur à certains matchs.
Ok, bon, bah on est d'accord sur ce qui aide de Paris Saint-Germain. On va dire un petit mot de Marseille-Nancy. Marseille-Nancy 3-0 pour les Nancéens. Un doublé d'Adji au 34e et 38e minute et un but d'Issardia. Alors j'aimerais savoir d'abord ce que vous en pensez. Par exemple, toi, Marvolo, sur les Olympiens et sur ce non-match des Nancéens qui sont restés à 10 en défense, encore une fois.
Bah déjà, avant de commencer à parler des Marseillais qui ont déjà fait un match de merde, je vais commencer par parler de Thierry Auriac, l'arbitre. Alors, premier but refusé de Cherou sur un hors-jeu de Koné, millimétré, millimétrique, ce que vous voulez. Alors, à moins qu'il ait une supervision, je vois pas comment il l'a vu. 2 minutes plus tard, c'est un peu la même chose. Koné qui part tout seul et puis il a encore, il siffle encore hors jeu. Sur le premier but de Hadji, il y a un des joueurs, qui est hors jeu. J'ai oublié le nom du joueur. Enfin, non, pardon, c'est sur le deuxième plutôt. Il y a Dia qui est hors jeu et puis il siffle encore un truc. Franchement, tu vois ce genre de match, tu te dis que cet arbitre-là, il a été fini à la pisse, parce que c'est pas possible, un truc pareil. C'est plus partiel comme arbitrage, ça n'existe pas. Et puis en plus, quand tu ajoutes à ça déjà l'arbitrage, moi, c'est quelque chose qui me saoule très vite. Alors si tu ajoutes à ça la défense à 2 neurones, là, les Hilton, Zubar, Théo...
à cause des neurones.
C'est pas possible. Franchement, ça me rappelle la vanne bidon de Jamel qui dit que les 2B3 c'est 2 cerveaux pour 3. Eux ils ont 2 neurones pour 3, quoi. C'est pas ah, tu sens Théo, tu sens qu'il louche quand il voit le ballon, il sait pas trop quoi en faire avant de...
Et technicité, c'est pas ça, hein. c'est encore en dessous des 2 neurones. Les neurones ils arrivent même pas au pied.
Non, bah ça c'est clair. Puis franchement, et après le pire, c'est que il y a rien dans cette équipe de Marseille, quoi. On a vu l'autre
merci Marvolo. Merci
Marvolo. Ah non, c'est loin d'être terminé, malheureusement. C'est loin d'être terminé.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi sur la dernière phrase que tu as.
Ce que j'appelle les deux salopes des côtés, donc Ben Arfa et Valbuena. Alors t'as la salope perso Ben Arfa qui se prend déjà pour Ronaldinho et compagnie, alors que bon, tu le vois que lui aussi il a été fini par la même méthode que Thierry Auriac. Et Valbuena par contre, c'est un truc quand même assez impressionnant, parce que je l'ai toujours trouvé assez nul à part 2-3 matchs. Mais par contre, j'avais lu un truc récemment, il y a quelques mois plus tôt, de Pierre Ménès, qui avait dit un truc que j'avais jamais remarqué avant, et depuis que je l'ai lu, je ne vois que ça. C'est la façon qu'il a de se rouler par terre dès qu'on le touche. C'est vraiment horrible, hein. Je vous invite à regarder un résumé d'un match de l'OM. De toute façon, vous verrez, dans ce résumé-là, vous verrez toujours 3-4 Valbuenades. Donc les Valbuenades, c'est une sorte, c'est une sorte de roulade. Pardon?
Face à Lyon, c'est un bon résumé pour voir les roulades de Valbuena.
C'est ça, franchement, c'est ce que j'appelle dorénavant une Valbuenade, c'est-à-dire la petite roulade dans le sol à la façon d'un épileptique.
Je crois que c'est mal frappé par le sol. Par l'herbe, il y a une attraction entre l'herbe et le ses mains.
Écoute, franchement, entre lui et Drenthe, il y a un match, hein, pour voir qui aime le plus le gazon. c'est franchement horrible. Et après, sur le troisième but, par contre, c'est un but aussi. Là, par contre, où l'arbitrage, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais franchement, déjà, quand tu vois que Marseille aurait pu ouvrir le score...
Pas de relance dans l'axe, ça prend minime.
Pardon ?
Pas de relance dans l'axe, pas de passe dans l'axe, comme ça, ça prend...
Écoute, ça c'est le premier truc que t'apprends quand tu vas jouer au foot avec pour les joueurs de champ, on leur apprend de jamais remettre dans l'axe, et les gardiens on leur apprend de sortir dans leurs 6 mètres. Bah, Marseille, cette année, on aura eu toute la panoplie des fautes de Minim. Alors, la passe en retrait de Zubar qui permet de, d'éliminer Mandanda contre Lille. Là aussi, on a vu des trucs horribles, quoi. Et puis, il n'y a aucune envie. Donc, c'est toujours la même chose. On dit, pour le recrutement de Marseille, on dit est-ce qu'ils vont prendre plutôt un défenseur ou un attaquant. Là, on voit clairement qu'il faut prendre les deux, quoi. Parce que, ouais, on l'a vu qu'on est aussi. Il faut le voir aussi qu'on est, parce que moi ça me fait mal quand même, hein, quand je vois que pendant 3 mois on négocie pour avoir une chèvre pareille qui a coûté dans les 10-11 millions d'euros. C'est franchement abusé, quoi. C'est cette équipe de l'OM là, c'est ça fait vraiment mal. Hein.
Parvolo, tu t'associes avec moi quand je confirme ce que je disais en début de saison, que Marseille a pas fait un bon recrutement.
Peut-être pas. Non, mais le problème c'est ça, c'est que c'est peut-être facile de dire après coup qu'ils ont pas fait un bon recrutement, parce qu'on est d'accord que.
Ah, je suis désolé, la Dan pourra ressortir mes phrases. Je l'ai souvent dit que c'était pas un bon recrutement d'avoir recruté Koné Ben Arfa.
Ah non, mais Koné Ben Arfa, je suis d'accord. Mais moi après, tu vois, des gars comme Hilton, tout ça, on se disait bon ben c'est peut-être pas mal. Même un mec comme Samassa, il était pas super mauvais au Mans.
Là, il s'est. Non mais un degré de.
Non mais tu sais, quand t'es super mauvais, pas super mauvais au Mans, généralement tu vas à Lorient.
Non mais non mais c'est ça c'est les c'est pas ça le truc, c'est que généralement ce genre de joueur, tu sais, c'est des joueurs qui marquent pas beaucoup mais qui font toujours mal aux défenseurs. Et là tu te rends compte qu'il a, en fait il a décidé de changer, mais malheureusement plutôt que de se mettre à marquer, il s'est décidé à faire mal à ses coéquipiers. Donc
il fallait un digne remplaçant à Matt Moussilou, non?
Ah bah écoute, il est très bien parti. Et puis franchement, voilà quoi. Et puis le plus grave, c'est quand même la baisse de régime des joueurs qu'on pensait quand même assez intouchables, les Sana, Chérou et compagnie. D'ailleurs, toi-même, je me rappelle, tu en parlais beaucoup, Arnaud, de Sana.
Je reconnais mes erreurs là, surtout.
Qu'on puisse préférer Mbami et compagnie. Moi, tu vois Sana, tu préfères Mbami, quoi. Il n'y a pas de.
Oui, non, mais c'est vrai.
Mais après, par contre, le seul truc qui me fait vraiment chier au-delà de la défaite, c'est que. En continuant comme ça, on va faire virer Guéretz, parce qu'il va tout simplement, il va soit décider de se barrer.
Ouais, parce qu'il en a, il commence à en avoir marre, hein, je pense, Guéretz aussi.
Lui. Bah, écoute, oui. Et par contre, si Guéretz se barre, là, on va bien rigoler, quoi.
Ah oui, parce que.
Va venir prendre le club et puis ça va être encore pire.
Ah oui.
C'est
Marseille sans Guéretz, déjà Marseille avec Guéretz a énormément de balles dans certains matchs, on le voit encore aujourd'hui. Alors sans une discipline qu'instaure Guéretz et son autorité, ça risque vraiment vraiment d'être compliqué.
Ouais, mais malheureusement, juste par rapport à ce que tu viens de dire, je te corrige juste sur un point. Il y a juste un élément qu'il faut pas oublier quand même, c'est que si l'arbitre avait pas je vous laisse finir cette phrase comme vous voulez, eh ben Marseille aurait mené au score très tôt dans le match.
Oui, ça aurait été.
Et là, ça aurait changé énormément de choses, parce que c'est pas. Franchement, je veux bien comprendre qu'un arbitre se plante sur un but qu'il valide, mais quand il enlève un but, qu'il enlève une contre-attaque super nette, et qu'ensuite il accorde deux buts avec des joueurs en position d'hors-jeu, c'est pas possible. C'est oui, franchement pas possible.
Non, mais on est d'accord. Mais bon, ça reste néanmoins. On voit la suite des événements et c'est ça qu'on commente surtout. Comment est apparu Marseille derrière. Ch'ti, tu voulais aussi réagir par rapport à cette équipe marseillaise.
On sait que le gros chantier a changé au mercato. Bon, si Diouf et Anigo ont assez de jugeote pour le faire, le gros problème c'est Azouba en défense, ça va pas du tout. Mais il y a aussi d'un autre côté faut faire également un dégraissage en réserve, parce qu'on a JV qui est en train de pourrir en réserve, alors que à mon avis il n'y a pas du tout sa place là. Faut vraiment changer quelque chose là.
Ok. Billy.
J'ai une stat intéressante. En fait, je viens de remarquer que Marseille a déjà perdu 3 fois à domicile. Et il reste encore invaincu à l'extérieur. Et en fait, sur 30 points disponibles à domicile, ils en ont pris 3 fois 5, 15, 17. Voilà, avec des défaites toutes récentes face à Paris. C'était comment ce soir? Nancy.
Lorient et puis Lorient aussi. Voilà.
Et le nul contre Lille aussi. Hein, qui est Lille. Voilà. Donc voilà, c'est pas la moitié d'un problème.
Billy vient de prendre la parole en une minute. Là, les auditeurs, il y a eu un pic d'auditeurs. Voilà.
Ils laissent leur caleçon tranquille.
Dans les Ligue 1, c'est rare. Faut faut conserver quand même.
Je voulais aussi parler un petit peu de l'adversaire d'un soir, Nancy, qui me fait quand même désespérer. Alors certes, il gagne 6 points entre le match de Bordeaux et le match de Nancy, le match de Marseille, où sont été deux matchs des plus médiatisés des Nancéens. Mais quand on voit leur attitude sur le terrain, c'est tout bonnement incroyable, quoi. C'est du 3 tirs cadrés, 3 buts, donc c'est vraiment vraiment dépitant de voir que des équipes comme ça soient encore dans le milieu du classement, à la 10e place les Nancéens. Donc moi je voudrais quand même passer un petit coup de gueule sur les Nancéens qui n'ont que d'autre objectif que de jouer comme ça en défense et de jouer sur des contres. Donc moi je vois vraiment pas l'intérêt que peut trouver Pablo Correa à prendre le risque de se prendre une valise et de repartir avec un 4-0 ou un 5-0 parce qu'il aura passé son temps à défendre, que prendre le risque ou gagner une fois contre Bordeaux 1-0 sur un but ultra chanceux d'Adji, une frappe des 25 mètres. Là bon, ce soir c'est la victoire est un petit peu plus nette contre l'OM, mais bon, on a parlé un petit peu des causes de cette victoire. Mais je trouve que Nancy, s'il continue comme ça risque vraiment de faire très 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 de leur faire très 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 mal, et même des équipes du niveau de tableau, on va dire moyenne, peuvent très bien gagner contre Nancy, car c'est tout bonnement incroyable quand on les voit défendre à chaque match. Ça me fait vraiment désespérer de cette ligue. Oui, Hugo.
Ouais, pour dire que Nancy en UEFA, c'est pas du tout la même chose, hein. Ils ont fait 3-0 contre Feyenoord en produisant un beau jeu, ils ont perdu 4-3 contre, le CSKA, après ils ont fait 1-0 contre le Deportivo. C'est une équipe qui est capable de jouer, mais en Ligue 1, je ne sais pas, peut-être que c'est le syndrome français qui veut ça, hein. Mais ils sont capables de faire un beau jeu.
Marv?
Ouais, parce que t'as quand même dit un truc, je veux bien comprendre si tu veux, l'essence de ton message, mais il y a quand même un truc con dans ce que tu dis, c'est je vois pas l'intérêt. Ben l'intérêt, tu le vois ce soir, c'est 3 points, 3-0 à Marseille. Si tu veux, Pablo Correa, je veux surtout pas le défendre, mais j'essaie de me mettre dans sa petite tête d'Uruguayen bidon. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, on voit bien que c'est un Uruguayen, ça c'est net. L'Uruguayen, si tu veux l'Uruguay, faut voir un match, c'est tous des bouchers. Et ils ont fort l'âme devant, donc
ils voilà. Ont c'est Cyril Roll aux quatre coins du terrain.
Cyril Roll, je peux te dire que c'est un remplaçant en 3ème division uruguayenne. là-bas, Cyril Roll, on l'appellerait la danseuse. Hein. Non, mais blague à part, le truc, c'est que voilà, malheureusement, pour nous, Pablo Correa, il fait un constat très simple. En UEFA, il joue, il perd. En Ligue 1, il construit des murs, alors bref, et il ramène des victoires chanceuses comme tu dis, mais il les ramène quand même. Donc forcément, il va toujours continuer à faire comme ça parce que c'est ce qu'il voit. Il voit qu'il y a une méthode qui est efficace et une autre que non. Donc forcément, il va continuer comme ça.
Oui, mais on se plaint alors de la Ligue 1. On se plaint énormément que des équipes défendent. Mais alors si on voit encore des matchs comme ce soir, une équipe comme Marseille qui est habituée à attaquer très souvent, elle a choisi plus l'option défensive que l'assise défensive, et je la félicite pour ça. Ça va entièrement décourager des équipes comme Marseille à attaquer, parce que si à chaque fois qu'elles joueront des équipes à 10 derrière, elles perdent, ça risquerait fortement de les décourager. Et on retrouverait un niveau de Ligue 1 qui serait considérablement abaissé encore une fois, déjà qu'il est très très faible. On pourrait peut-être encore trouver un petit peu plus bas. Donc faut savoir un petit après ce qu'on veut entre les résultats et l'attractivité du championnat. Moi personnellement, je choisirais...
Bah écoute, tu sais, le meilleur parallèle pour ce que tu viens de dire, c'est le tennis. Actuellement, il y a un phénomène au tennis qui s'appelle le ralentissement des surfaces. Donc, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ça. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des Murray, des Simon, des Nadal tout en haut, parce que c'est des gars ultra défensifs. C'est un peu la même chose au foot, tu vois. Donc, toi, tu me dis, est-ce qu'ils vont défendre ou pas? Quand tu joues contre un mec défensif, t'es quand même obligé d'attaquer. C'est comme ça, il faut s'y faire. Et après, tu me parlais de la Ligue 1. Le truc, c'est que je pense que de toute façon, même en jouant au football, ils en sont pas capables. Et c'est un peu ça le souci. C'est que à Nancy, il y a qui pour jouer au football?
Adji.
Malheureusement, il y a pas grand monde.
Adji, c'est bien le seul, alors. Hein.
Si Adji, bah, écoute, assez... bah techniquement, ouais. Il est.
Bon, c'est bien le seul, alors.
Et bah écoute, tu sais, Adji, moi je le vois à chaque fois qu'il joue avec l'équipe nationale. Ouais, si c'est ça pour voir un tripoteur de ballon, ça fait vraiment mal. Hein. C'est vraiment. C'est vraiment un joueur plus que moyen. Et c'est. Mais c'est ça le souci, c'est que tu vois, c'est bien de taper sur la Ligue 1 parce que les matchs sont mauvais, tout ça, mais un mec comme Correa, par rapport juste à ce que tu dis, qu'on soit bien clair, sur le qu'est-ce que ça lui avance, à quoi ça l'arrange, tout ça, bah, c'est un truc mathématique, hein. Quand il joue l'attaque, il a 0 points, et quand il joue la défense, il en a 3 ou 1, donc il va continuer, malheureusement.
Oui, t'as raison sur le fait, mais je voudrais quand même rebondir un petit peu. L'année dernière, Nancy proposait quand même un jeu magnifique. J'étais allé voir le 1 partout Nancy-Lyon à Picot et j'avais vu un match superbe, un match où Lyon avait égalisé à la 80e minute, c'était pas mérité du tout. Et alors, par la perte de deux joueurs, dont un en défense, donc on peut pas dire que ce joueur-là, au niveau de la construction, soit très important. On va dire que la perte de Kim l'a été plus dans la construction. Je comprends pas, parce qu'il n'y a pas eu une révolution dans l'effectif nancéen, que d'un effectif où il y avait un collectif très intéressant, on passe à un effectif où on joue en contre-attaque et rien de plus, car on n'arrive pas à construire deux actions de suite. J'aimerais quand même avoir une réponse si les Nancéens du forum nous écoutent, j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus, parce que comment on peut en quelques mois trouver un déséquilibre comme ça? Ouais, Ch'ti.
Bah, c'est un peu comme Valenciennes et comme beaucoup d'autres équipes de la Ligue 1, comme la moitié des équipes de la Ligue 1 qui préfèrent construire des murs et puis profiter des grosses conneries des défenses adverses. C'est tout, voilà. C'est pas que tu peux pas attendre qu'ils créent du jeu s'il y a que Adji qui est très limite, comme l'a dit Marvolo.
Pierrot. Pierrot n'est pas là. Bon. Je voulais donc finir sur ce match-là avec Hugo.
Ouais. Bon, bah, c'est sûr que Nancy, c'est une équipe qui ne jouera pas. Parce que tout simplement, ils n'ont peut-être pas les moyens. Ils ont surtout perdu Kim et actuellement, je ne vois pas qui peut le remplacer. Peut-être Ferré. Mais bon, Ferré, physiquement, il peut pas tenir 15 minutes de haut niveau. Enfin, haut niveau en Ligue 1, c'est un grand mot, excusez-moi. Mais y a personne pour remplacer Kim, et Kim, c'était le métronome, quoi, l'année dernière, clairement.
Ok. Bon, ben, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on a retrouvé Pierrot?
Ouais, je veux réagir sur le jeu de Nancy de l'année dernière. Faut quand même rappeler que la majorité des buts décisifs de Nancy l'an dernier, c'est coup franc de Gavanon et tête depuis Grenier, hein.
C'est pas faux.
Ouais, mais je peux quand même te confirmer que pendant les trois quarts de la saison, Nancy a vraiment déployé un jeu très intéressant jusqu'à, on va dire, la période dure pour eux, ça a été la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, et après.
Bah donc c'est pas trois quarts de la saison alors. C'est jusqu'à janvier.
La moitié, mais on a revu quand même une équipe nancéenne après la Coupe d'Afrique des Nations pas trop mal et qui s'est un peu effondrée en fin de saison, mais je maintiens le fait que Nancy était vraiment très très agréable à regarder dans toute la première partie de championnat.
Ben ça se voit que tu vois que la Ligue 1, parce que si tu considères que Nancy était très agréable, pour reprendre ton expression, à regarder, c'est que franchement tu vois pas beaucoup de foot, hein.
Bah,
c'est
pour la Ligue 1, oui.
Très agréable. Bah, pour la Ligue 1, c'est ça le souci.
Bah oui,
c'est moche avoir joué. Nancy, j'en ai vu pas mal parce que comme je l'avais expliqué, malheureusement sur les chaînes arabes, on nous passe que du Lorient ou du Nancy. Vive les droits télé en arabique pour faire plaisir à mon ami Billy. Mais donc voilà, je les ai vus souvent et puis c'était quand même limite chiant. Et puis comme l'a dit Pierrot, t'avais et en plus j'avais sorti la stat il y a quelques semaines, c'était 45% de buts sur coup de pied arrêté, donc.
Bah, moi, je maintiens quand même mon opinion. Donc, pour finir là, pour expliciter tout ce qu'on disait jusqu'à maintenant, Marseille ce soir, c'est presque 70% de possession de balle contre 30 pour Nancy, donc une très très grosse domination marseillaise. Marseille qui pointe finalement la 6e place du classement avec cette défaite, tandis que Nancy remonte à la 10e place avec 25 points, à égalité de points avec Grenoble qui sont 11e et une moins bonne différence de but. Donc on va passer au dernier match de ce soir, Monaco-Bordeaux. Match qui s'est terminé donc il y a environ 3 quarts d'heure. Les Monégasques qui menaient 3-0 jusqu'à la 52e minute sont vus encaisser 3 buts en 40 minutes. Chamac, Diarra, à nouveau Chamac et Kavenaghi sont les buteurs pour Bordeaux. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hugo, pour un petit peu commencer à planter le décor de ce match-là?
Bah, déjà, c'était un beau match. C'était rare de voir des beaux matchs le dimanche soir. Faut le préciser, parce que la semaine dernière, on s'était bouffé une vraie purge, quoi. Et puis bon, bon, Monaco, ils ont fait un bon match encore, hein. Ça allait, comparé au match de Valenciennes la semaine dernière, où on était minable, encore plus que minable, puisqu'on a pris 3 buts contre Valenciennes, pour dire. Et puis, en face, que dire de Bordeaux, quoi. Ils ont eu un peu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était on va dire, le grand Bordeaux, quoi. Parce qu'ils sont restés à nous planter 4 buts. Bon, ils ont fait, moins bien que la saison passée, où ils en avaient marqué le 6, mais bon, j'ai pas voulu le cacher, je suis dégoûté, je trouve pas les mots.
Bah, le fait c'est que, comment on va dire, s'il y a une faute ce soir du côté monégasque, c'est pas forcément les joueurs, c'est la tactique de l'entraîneur qui fait que après le troisième but monégasque, on a vu une possession de balle qui a été totalement à l'avantage des Bordelais et Monaco a laissé le jeu à ses adversaires et on pouvait presque prévoir après le but de Diarra à la, il me semble, Diarra a marqué à la quoi, à la 68e minute, oui. Après ce but-là, dans les 20 minutes qui restaient, on pouvait presque prévoir que Bordeaux allait revenir et il s'en est fallu 2 minutes pour changer le cours du match. Donc c'est là encore, et on le répétera une fois de plus, c'est la faute revient totalement sur les épaules de Ricardo.
Ouais, Ricardo, il commence à, mais là il m'exaspère, quoi.
Mais en fait c'est assez étrange parce que pour une fois la composition qu'il avait mis en place pouvait paraître exaspérante sur le papier parce que Meriem, Pinoli, Kata, Keita, Muratori, Mongu, c'est quand même très 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 très, très limite. Et finalement ça a plutôt bien paru en première période et c'est l'état d'esprit qui a été engendré après ce troisième but monégasque qu'on lui reproche ce soir. Adrien.
J'ai pas vu tout le match, mais on peut dire que Monaco peut être déçu, mais peut avoir des gros regrets, c'est sûr, mais vu le nombre d'absents qu'avait Monaco, faut se dire que Monaco dans cette les supporters monégas partaient déjà avec une défaite dans leur tête. J'avais l'impression que le match était déjà perdu d'avance et donc et que c'était tellement imprévisible que vous meniez 3-0, et ben c'était un peu surprenant. Donc on va dire que même avec une équipe bis, et ben c'est quoi intégrer, ça montre que cette équipe a du potentiel quand même, même si l'entraîneur est pourri, quoi.
C'est vrai que l'attitude des Monégasques était assez explicite ce soir. Mais bon, on pouvait quand même avoir un brin d'espoir quand même. On a vu une fois de plus un Patrick Muller qui était encore sur le banc, parce que moi, je le mettrais vraiment en défense, parce que Nkou, ça m'inspire vraiment rien.
Muller, c'est vraiment... Il ferait pas de la gueule, ça?
Ah bah si, totalement. Mais apparemment, faudrait le dire encore une fois.
Je plussois pour Muller, Simic, personnellement.
Ouais. C'est assez complémentaire en plus. Puis en plus, vu que Nkoulou, c'est vraiment très 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 faible, on ne peut pas plus soyer, comme tu dis, l'arrivée de Muller en défense monégasque.
Il joue toujours pas.
Il n'a jamais fait une apparition avec Monaco.
Non, il n'a jamais joué encore, hein, parce que Ricardo est sur le banc, faut le dire encore. Il est encore sur le banc, oui, de Bonta n'a toujours pas pensé à le virer, il veut même le faire plonger. À Monaco, on aime bien les mauvais, quoi.
Oui, je dis. C'est le summum du n'importe nawak.
Bah, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais...
Si tu dis que de bon temps veut prolonger Ricardo qui est franchement mauvais, enfin qui est pas foutu d'entretenir correctement
le fait son
effectif.
Que Monaco c'est une victoire, deux nuls, une défaite, c'est l'irrégularité par excellence. Donc on va être très content quand on va gagner 3-0 contre Le Mans. Derrière, on va peut-être aller accrocher un nul à Marseille. Après, on gagnera un match contre Paris. Par contre, on fera une défaite contre Bordeaux à la dernière minute, alors qu'il va nous répéter le discours que on a bien joué, on aurait très bien pu gagner ce match-là. Donc c'est pour ça que un président comme Demontin, qui ne connaît strictement rien au foot et qui s'en bat les couilles, lui, il est juste venu là pour gérer un petit, voir comment ça faisait de gérer un club. Il voulait un peu changer les idées, les entreprises, ça lui cassait les couilles. Il s'est dit tiens, on va passer un peu au sportif. Monaco, c'est la bonne planque. Et comme Monaco est dans de graves problèmes financiers depuis déjà on va dire depuis 2002-2001, même pendant l'époque de la Ligue des Champions, on a essayé lui puisque ça a été un très très bon gérant d'entreprise. Et le fait est que quand il voit des victoires comme ça de Bontin contre Paris ou contre Le Mans, et puis qu'il voit une défaite contre Bordeaux très limite ou un nul contre Marseille qui est quand même 6e du championnat, il se dit bah cet entraîneur est pas si mauvais que ça, donc on va le reconduire. Et l'irrégularité fait que on va reconduire encore une fois Ricardo. Oui, Hugo.
Il y avait là, Anne aussi, monsieur.
Là, à mon avis, ça va faire réfléchir de Bontin, puisque je sais pas si t'as regardé, mais le prince Albert de Monaco a vraiment eu, je sais pas, à dégoûter ou je sais pas, mais à mon avis, il va pas laisser ça comme ça. Déjà 6-0 l'année dernière, déjà 4-3 là cette année. Ricardo, il fait que nous descendre depuis 2 ans, quoi. C'est... Ouais. Avec lui, on est foutu, quoi.
Bon, oui, Anne, t'avais une petite question sur les Monégasques.
Ouais, je voulais savoir si en alignant une équipe plutôt jeune, Monaco, il perd pas le match sur un manque d'expérience.
Bah, je vais dire que non, parce que Monaco, il y a quand même Simic derrière. Il y a, bon, c'est vrai que si on veut reprendre les, oui, si, on va dire que t'as raison sur le fait que ce soir il y a Rufy, Muratorin, Nkoulou, Mongongu, Molo, Likata. Mais Monaco perd pas forcément sur un manque d'expérience, parce que on va dire que gérer le match c'est un fait, mais gérer le match ça peut se faire pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum. Normalement, on doit continuer à développer le jeu qui est fait jusqu'à présent quand on mène 3-0. Et ça, c'est Ricardo qui leur a donné la consigne totale de faire l'inverse. La preuve, Diego Pérez rentre à la place de Meriem, alors que Meriem était dans le poste de milieu gauche. Likata aussi sort à la place d'un joueur, il me semble que c'est c'est Adou, mais il fait ce changement là que à la toute fin de match, alors que c'était avant qu'il fallait rentrer ses atouts offensifs.
Absolument, tu crois
pas, oui.
Hugo?
Oui,
bon, tout à fait. Justement, il s'est trompé, il fallait mieux faire rentrer Adou à la place de pas la 60e, mais faire rentrer Diego Pérez à la fin pour fortifier. Mais bon, Ricardo n'a toujours pas compris.
Voilà,
on a dit qu'on comprendra jamais.
On blinde pas la défense à 45 minutes de la fin du match, enfin, ou à 40 minutes de la fin du match. Un match, ça se joue quand même au minimum sur 80 minutes. Donc si on essaye de conserver le résultat, ça se fait sur 10 minutes à la fin ou 10-15 minutes maximum. Oui, Ch'ti, pour finir.
Ouais, donc sur ce match, j'aimerais surtout savoir ce que, à propos de Genève, j'aimerais savoir ce que t'as pensé de Pino, puisque là son deuxième but en 2 matchs, c'est que vous le flinguiez hebdomadairement, mais maintenant il est un peu en train de vous faire fermer votre bouche, non?
Bah Pino, on va dire que son premier but, bon, je mets ça sur le compte de la chance, faut le dire. Mais on va dire qu'il a quand même fait un bon match. Il délivre une passe décisive pour Ligata, un bon centre après un bon travail technique. Donc Pino est en train de trouver quelque chose d'assez intéressant du côté de Monaco. Moi, je l'alignerais sur un côté parce que pour moi, c'est pas un finisseur, c'est un joueur de débordement. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo.
Ouais, bah je pense que c'est la même chose, mais bon, il a pas été énorme ce soir. Mais Pino, ça fait quand même depuis qu'il a signé à Monaco qu'on dit que c'est un putain de joueur. Marc Keller, il a même dit dans je sais plus quelle émission, et puis c'est seulement maintenant qu'il commence à jouer, donc c'est ça, il paraît que ça commence un jour. Hein.
Ouais, c'est vrai que depuis le temps, il a été prêté à Charleroi et tout ça depuis, et c'est vrai que il a jamais explosé, donc si ça commence maintenant, ça serait pas mal. Mais il faudrait qu'il soit vraiment associé à côté d'un joueur plus costaud que Licata lui aussi, qui Monaco n'a, là on en revient au même problème, ils ont pas de numéro 9, et il faudrait vraiment que Monaco en trouve un, parce que ça soit Pino ou Licata, c'est pas ça devant. Juste pour finir sur l'adversaire du soir, Bordeaux qui reprend une place sur le podium, deuxième à un point de plus que Rennes, 35 points et donc toujours à 3 points des Lyonnais. Bordeaux qui commence peut-être à maintenir la cadence comparé à Marseille, quand on voyait les trois en début de saison, Bordeaux arrive à maintenir la cadence et encore un très bon match de Marouane Chamakh, donc j'aimerais féliciter ce joueur qui m'impressionne vraiment et qui on lui reprochait souvent de ne pas marquer assez. Là si justement il commence à planter des buts, il risque vraiment de ne pas rester longtemps à Bordeaux, parce que c'est un joueur très 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 complet. Marvolo, je sais pas, tu l'aimes bien toi avec la sélection du Maroc?
C'est pas le même joueur, moins technique et il marque plus. Donc c'est un peu dommage.
Ah, d'accord. Bon. Quand on voit ces matchs avec Bordeaux, on peut quand même imaginer qu'il peut faire des choses pas mal. Donc on va arrêter avec la France pour faire plaisir à ces messieurs Marvolo et Billy. Et on va passer maintenant à l'Espagne d'abord. À l'Espagne, je vais rappeler un petit peu les résultats de cette 16e journée. Madrid gagnait hier contre Valence sur un but d'Higuain. Cet après-midi, Villarreal s'est incliné sur sa pelouse face à Barcelone de 2-1, dont un but de Thierry Henry. Séville et Mallorca ont fait match nul 0-0. Osasuna s'est imposé 5-2 face à Retafe. La Corogne a battu 4-1 Huelva. Numancia a battu 4-3 Valladolid. Santander et Malaga ont fait match nul un but partout. Giron s'est imposé 1-0 face à Almeria. Et ce soir, le match qui opposait le Betis Séville à l'Athletic Bilbao s'est vu se finir sur un score d'un but à zéro. Donc, Marvolo, qu'est-ce que tu as pensé, si tu veux commencer peut-être par le match de ce soir du Betis Séville?
D'abord, je vais commencer par m'excuser auprès de ceux qui écoutent la partie Liga pour la prononciation que tu as pu faire. C'était très spécial. Sinon, on va plutôt faire par ordre chronologique. Donc, le premier match, c'était donc Real Madrid-Valence hier à 20h. Victoire 1-0 du Real avec un but d'Higuain. C'était un match où on a pu commencer déjà par voir un peu la patte de Juan de Ramos. Là, pour le coup, on a eu, comme on en avait pu en parler avec Anne, donc vendredi, une équipe avec une tactique symétrique et non plus ce 4-2-1-1-1. Bref, on peut l'appeler comme on veut parce que ça avait aucun sens. Un truc où ils avaient qu'un seul ailier, et puis l'autre côté, non, pas besoin d'ailier. Là, pour le coup, ça a été assez bon. Même si, moi, il y a toujours ce côté gauche, là, le Marcelo Drenthe, j'ai vraiment du mal. Après, Anne, qu'est-ce que tu vois, comment tu as vu le match, toi?
Alors, on a vu un très grand match de Robben, je tiens à souligner. C'est sur le premier but, c'est lui qui crée l'action, il a créé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de ratés, notamment Guti, Palanca. Enfin, c'était des buts tout créés par Robben. Enfin, c'est dommage que la finition ait manqué pour les autres joueurs. Après, pour Valence, je trouvais la défense mauvaise. Surtout Delorno qui s'est fait passer tout le temps par Robben. Et en fait, je trouvais qu'il laissait beaucoup d'espace aux attaquants du Real. Donc, c'était pour des joueurs comme Robben qui prennent de la vitesse, qui sont très techniques, et c'était facile un peu de passer. Il y avait aussi on a parlé aussi avant du match, d'un match dans le match, c'était Raúl contre Villa. Parce qu'on dit que c'est les deux sets de l'Espagne. Et en fait, pour moi, les deux, ils ont été invisibles. Surtout Raúl. Et Villa, il a loupé beaucoup de choses, notamment un but tout fait. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Moi, par rapport à ce que tu dis sur les ratés, le raté de Guti en fin de match, c'est quelque chose de... C'est quand même énorme. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le match, en fait, Robben attaque côté droit, il élimine tout le monde, il lui met une passe en retrait. Et Guti, dans un grand moment de sentiment madrilène, et ben il décide d'offrir le ballon aux supporters. Et il l'envoie donc à la tribune du haut. Alors que Reynal était déjà battu, la défense était ben comme toute passe en retrait, donc la défense était prise à contre-pied. Puis bon ben voilà quoi, il nous sort un drop. Mais moi, sinon, ce que j'ai apprécié, c'est surtout la position de Van der Vaart. J'ai trouvé que c'était pas mal d'enfin lui laisser jouer un peu en 9,5. Même si bon ben on voit quand même qu'il est pas encore trop à l'aise au Real Madrid. Mais sinon, comme tu avais dit, la défense de Valence, et puis Marchena qui finit pas un match, c'est pas une nouveauté. Et puis je pense que quand à chaque fois qu'on aura un bon arbitre pour arbitrer Valence, il finira pas le match.
Exactement. De toute façon, il y avait beaucoup d'agressivité du côté de Valence, moi j'ai trouvé. Je pense que Marchena c'est pas le seul à mériter un rouge dans ce match. Mais bon.
De toute façon, c'est ça, Marchena. C'est un habitué des tacles au niveau du genou, tout ça. Et puis moi, pour le coup, par contre, j'ai vraiment apprécié l'arbitre parce que il a pas hésité à expulser Marchena, il a mis pas mal de cartons. Ça n'a pas vraiment été le cas dans tous les matchs cette semaine, malheureusement.
Ouais, mais voilà. Je me souviens d'une action où il y a un défenseur qui tacle. Enfin, c'est le dernier défenseur et je crois qu'il met un carton jaune ou je crois qu'il met rien même. Et je sais plus quelle action.
Moi, je te dis, c'est dans la mesure où l'arbitre n'a pas influencé le match et qu'il n'a pas hésité à calmer un peu tout le monde. Ça me dérange pas trop parce qu'après, forcément, des fois, les arbitres essayent d'être psychologues et essayent de pas de ne pas appliquer la loi, mais plutôt d'essayer de vraiment chercher une façon de l'interpréter un peu plus, un peu plus clémente, si tu veux. Pour justement pas envenimer le match, parce que je pense qu'à ce moment-là, un carton rouge aurait fait plus de mal que de bien à ce match-là.
Mais l'entraîneur de Valence a quand même réussi à se plaindre de l'arbitrage.
Bah, de toute façon, en Espagne, c'est un peu ça partout, malheureusement. Mm. Voilà, on a fait le tour de ce premier match-là. Donc, on enchaîne avec le deuxième, qui était Espagnol-Atlético Madrid. L'Atlético l'emporte 3 buts à 2 grâce à un doublé de Maxi Rodriguez et un but d'Agüero, donc 3 Argentins. Et côté espagnol, début de Sergio Sanchez et Valdo, l'ancien madrilène. Là aussi, il y a quand même un truc qui est énorme chez l'Atlético, c'est que quand les deux, les Forlan et Agüero sont en forme et qu'ils sont accompagnés par un Maxi comme ce soir et avec un Simao qui a quand même fait pas mal de bien aussi sur son côté gauche, et ben ils sont franchement très difficiles à battre. Ils sont sur 5 victoires de suite. Moi je continue à le dire, cette équipe là quand ils sont vraiment en forme, c'est une des toutes meilleures d'Europe.
Offensivement, c'est 38 buts en 16 matchs quand même, donc ouais.
Le souci, c'est comme tu l'as dit, offensivement, c'est t'as une différence à partir de Asunsao. D'Asunsao vers le haut, c'est énorme, et d'Asunsao vers le bas, c'est moins bien. C'est même franchement moins bien.
Mais on voit que parce que moi j'ai trouvé que l'Espagnol avait plutôt dominé le match, et on voit que l'Atlético sans dominer, ils arrivent quand même à s'imposer. Donc
mais bon, de toute façon, c'est le truc. Surtout le problème. Enfin, le problème est le. C'est à double. En fait, c'est le Maxi Rodriguez, plutôt pour moi, c'est un joueur à double tranchant, parce que le problème, c'est le jour où il a jamais de match, il connaît pas la demi-mesure en fait. Donc soit il est super transparent, soit il est comme aujourd'hui et il marque un doublé. Javier Aguirre, d'ailleurs, en fin de match, il avait dit qu'il était en état de forme en ce moment, et ça s'est un peu vu parce qu'en ce moment l'Atlético Madrid, ils sont très très durs à battre. Donc Arnaud, je sens que tu veux dire quelque chose.
Je voulais demander un petit peu qu'est-ce que tu pensais du fait que Rodriguez est tout simplement exceptionnel en début de saison. Est-ce qu'il n'est pas encore plus important cette saison que la saison dernière?
Moi personnellement, je trouve un peu moins bon que l'an passé.
Parce honnêtement, qu'il est quand même très décisif cette saison, non?
Bah, le problème, c'est ça, c'est qu'il est encore plus irrégulier que l'an passé. L'an passé, à la limite, il faisait quand même des matchs assez bons. Mais cette année, par contre, c'est vraiment, soit il est très bon, soit il est très mauvais. Il y a vraiment, Il y a vraiment aucune demi-mesure chez ce joueur-là, et c'est ça qui est dommage. Parce que, mine de rien, l'irrégularité en Ligue des Champions, parce que c'est quand même leur gros objectif de la saison, vu qu'en UEFA, ils sont déjà, pour se qualifier, pardon, pour la Ligue des Champions, ils sont déjà très bien placés. Je pense que ça sera un petit peu dangereux. Hein.
Il y avait une question d'Adrien aussi.
Oui, c'était par rapport à Florence Ilamapongol dont on avait beaucoup parlé au début de saison. Et je voulais savoir ce qu'il donnait en ce moment, parce que il y a le retour de Forlan, donc je sais pas s'il a été mis sur le banc ou s'il a été gardé en tant que titulaire et ce qu'il donne en ce moment. Voilà.
Ah bah il est remplaçant, ça. J'avais déjà expliqué un peu le statut qu'il avait. C'est le numéro 3 en attaque. Et c'est un très bon joueur, Sinama Pongol, mais il a quand même. Le problème, c'est que si tu veux, c'est que Sinama, c'est un bon joueur. Et Agüero et Forlan, c'est des très bons joueurs. Donc, tant que les deux seront en forme et que si l'Atlético n'a pas besoin de faire tourner, il jouera pas. Là, il est rentré en fin de match, mais Forlan, Agüero, moi, je persiste et signe, c'est vraiment c'est le meilleur duo du monde. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute.
Je voulais juste finir au niveau des Français qui sont à l'Espagnol, à l'Atlético. Est-ce que Franco est toujours à son meilleur niveau, le gardien titulaire, on va dire, Léo Franco de l'Atlético, et est-ce que Coupé n'a aucune chance d'accrocher une place de titulaire dans cette équipe?
Bah, le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de titulaire en Ligue. Il n'y a pas vraiment de titulaire, pardon, tout court. C'est vraiment. Pardon?
Comme l'an passé, c'était pareil avec Abiati, non?
Non, l'an passé, c'était. Non, c'est pas la même chose, parce que l'an passé, Abiati n'a joué que suite à la blessure de Léo Franco. Là, pour le coup, les deux joueurs sont là, et ils se tirent la bourre à chaque entraînement. Donc, il y a vraiment une émulation, très saine entre les deux. Mais, je pense, moi, que, au vu de l'expérience de Coupes, je pense que ce sera lui qui va jouer en Ligue des Champions et pas Léon Franco, ce qui pourrait expliquer qu'en ce moment Léon Franco joue un peu plus en championnat que Coupes.
Ok, bon. Bah, je pense que. Ah, bah non, il y a Fili aussi qui voulait finir sur ce match-là, et puis après, Marvel pour enchaîner sur les matchs d'aujourd'hui. Ouais, Fili. Allo. Bon, il est plus là. Bon, bah, vas-y, Marvolo, je te laisse faire sur les matchs d'aujourd'hui.
Bon, on va enchaîner par je pense le match le plus chiant de la journée, c'est le Mallorca Sevilla 0-0. Anne, tu as vu le match?
Je l'ai suivi un petit peu. Pour moi, aucune équipe n'a pris de risque. C'est pour ça qu'on a vu un 0-0. Bon, ça permet à Séville de finir deuxième et à Mallorca de sortir de la zone de relégation. Donc, je pense que c'était un peu le but des deux équipes.
Mais moi, pour avoir, j'ai malheureusement pas pu le voir le match entier, mais j'ai vu le résumé et c'est bien quoi. Le résumé a duré 2 minutes. Autant vous dire que il y a rien eu.
Et je crois qu'il y a eu seulement une action pour chaque équipe en première mi-temps. Donc
c'est ça. C'était une action de Núñez qui aurait pu marquer, qui a eu une grande occasion au bout de 5 minutes. Mais sinon voilà quoi. On a bien vu que les deux entraîneurs. Ils ont même pas tenté un truc, donc je sais pas si c'est des amis du cercle des amis de Coréa ou quoi que ce soit, mais
Monaco.
Franchement, c'était horrible comme match. Hein. Je pense que ça mérite même pas qu'on continue là-dessus plus longtemps. Sinon, voilà, on va enchaîner avec Osasuna Getafe. Eh ben, cette équipe de Osasuna qui est toujours très très irrégulière en Liga depuis 3 ans, et puis là, ils font un peu la même chose, même si moi, j'ai trouvé cette équipe de Getafe super faible aujourd'hui. Je sais pas comment tu as vu le match, mais moi, j'ai franchement trouvé très très faible cette équipe.
Hein. Ouais, pareil. Enfin, je trouvais que Getafe, ils ont plutôt mal joué. Osasuna, c'est quand même la lanterne rouge. Ça fait que leur deuxième victoire, mais ils ont écrasé Getafe 5-2. Et je pense que Osasuna aussi a été très réaliste pendant le match.
Ok. Je voulais juste te demander qu'est-ce que tu pensais de Anne, toi, qu'est-ce que tu pensais du joueur qui vient de Monaco justement et qui doit normalement toujours jouer à Osasuna, Yaroslav Plazil.
Plazil. Ouais, enfin, c'est.
Ça a l'air de t'inspirer.
Non, pas tellement. Enfin, l'Osasuna, ils jouent plutôt mal en ce moment. Donc, ils ont gagné 2 matchs depuis le début de l'année. Enfin,
vous verrez comme
pour moi, quand une équipe joue mal, c'est que toute l'équipe joue mal. Donc,
bon, d'accord.
Bah, le truc, c'est que Plasil, tu vois, c'est pour moi, c'est vraiment le joueur à l'image de Osasuna. C'est pareil, quoi. Il y a un match où il va être très bon, il y a un match où il sera moins bon. Même si, par rapport à l'époque monégasque où il était quand même beaucoup plus jeune, où on lui voyait un avenir exceptionnel, il a vraiment déçu, hein, parce que là, il a déjà 24 ans. C'est bon, il est encore assez jeune, mais 24 ans, c'est l'âge où on est censé être commencer l'explosion. Et lui, franchement, il est limite en train de régresser ou de stagner. Donc, franchement, c'est.
Quand Marguera reviendra. Quand Marguera reviendra. Quand Marguera reviendra.
Ouais. Non, mais bon, franchement, c'est. Plasil, c'est un joueur plus que moyen, quoi. Donc, c'est d'autant plus dommage que moi, lors de l'époque monégasque, je l'apprécie énormément. Je trouvais que ce gars-là, il aurait pu devenir un joueur de classe internationale et jouer dans un gros club. Mais là, franchement, il aura de la chance de retrouver un autre club en Liga si jamais Osasuna veut s'en débarrasser.
Ouais, bon, on est d'accord. Juste, attends, je voulais juste te demander deux choses. En fait, c'était pas sur ce match-là, parce que comme t'es passé un petit peu vite, juste au niveau pour tous les Français qui nous écoutent et qui veulent avoir un petit peu de nouvelles au niveau de l'équipe de France, est-ce que la charnière Skilacci-Scudé est toujours aussi forte que comme on nous l'annonçait en début de saison?
Je sais pas qui t'annonçait que cette charnière était très forte, mais en tout cas, il avait dû prendre des substances très stupéfiante, comme dirait l'autre, parce que sur le début de saison, je crois qu'on en a suffisamment parlé ici pour savoir qu'SQD, il a offert 4-5 pénaltys en début de saison. Skilacci. Et SQD, il est malheureusement blessé, donc il a plutôt une tendance à se blesser, donc du coup, il est souvent sur le retour et il a du mal à enchaîner et donc à retrouver son meilleur niveau. Mais donc cette charnière-là, c'est ça le problème, c'est que sur le papier, elle peut être très intéressante. Et c'est pas ce qu'on voit tout le temps, mais par contre, si on a un des deux qui brille, c'est quand même Skilacci. Lui, pour le coup, il mériterait peut-être une deuxième chance en équipe de France, parce que mine de rien, c'est un très très bon joueur.
D'accord. Et juste une petite dernière chose sur Séville. Est-ce que, à ton avis, Romaric, est-ce que ça pourrait être le Keita de la saison passée?
Je pense pas. Entre Keita et Romaric, il y a quand même, à mon sens, deux classes d'écart. Donc.
D'accord. Bon, on est d'accord. Vas-y, tu peux passer à un match suivant.
Le match suivant, c'est donc Deportivo avec la Liga Huelva.
Effectivement, dit comme ça, j'avais une mauvaise traduction.
Oui. Donc, 4-1. Des buts de Lopo, Sergio Bodipo, Felipe Luis et Adrián Colunga pour le Recreativo Huelva.
C'est bon, fais pas le show. Hein.
Le truc, c'est que le Deport, c'est franchement une équipe plus qu'intéressante depuis la mi-saison de l'an passé. C'était, il me semble, et je sais pas si Anne peut me le confirmer, il me semble que c'était la meilleure équipe des phases retour l'an passé.
Je crois, ouais.
Il me semble bien que c'est ça. Là, le Deport est 7e, à 2 points du Real Madrid et de Villarreal. Ils sont même à 4 points de Séville qui est 2e, donc c'est vous dire qu'ils sont pas, ils sont très très proches de la tête du classement. Et voilà, là pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esprit de Ligue 1, donc les équipes compactes, tout ça, eux c'est la version offensive de Correa. Alors c'est une équipe compacte en phase défensive, donc c'est un peu logique, mais par contre en contre ils explosent un petit peu et ils s'écartent. C'est impressionnant à voir et c'est très difficile aussi à expliquer parce que tant que c'est plus visuel que qu'autre chose, parce que à partir du moment où ils ont un contre, donc ils partent tout de suite avec leur première ligne offensive composée donc Lafita à droite, Guardado à gauche et Verdú au milieu. Je parle pour les joueurs qui ont joué aujourd'hui avec Bodipo en pointe et ils font franchement très très mal. Moi j'avais pu les voir notamment lors de leur visite au Manuel Ruiz de l'Opera contre le Betis où ils avaient battu le Betis facilement 3-0. Moi cette équipe là franchement c'est à mon sens ce serait l'Aston Villa de la Liga.
À ce point là tu penses que c'est vraiment une équipe qui pourrait prétendre aux 5 premières places.
Ben, je pense qu'en tout cas, ils seront dans la première partie de tableau. Je pense qu'ils seront européens l'an prochain. Après, faut voir si ça. Moi, je pense que si Valence, je suis pas sûr que Valence va continuer sur sa lancée. L'Atlético, faut voir s'ils vont pas rechuter comme ils rechutent tout le temps. Sevilla aussi, je suis pas spécialement convaincu. Donc moi, je pense que cette équipe-là, si elle continue sur sa lancée, elle peut, voilà, parce que surtout qu'on la calcule pas trop cette équipe du Déport, alors que ils sont à 4 points du deuxième et ils ont déjà pris un matelas assez confortable sur les équipes qui veulent, les autres équipes plutôt qui veulent jouer l'Intertoto, à savoir les Betis, Real Madrid. Quand je veux dire Intertoto, je veux dire c'est en fait le concept a un peu changé. Maintenant on rentre en premier tour de l'UEFA, ou plutôt l'Europa League, comme elle s'appellera l'an prochain. Et donc ce sera en fait pour expliquer à ceux qui n'ont pas compris en fait comment s'organisera les Coupes d'Europe l'an prochain. En fait, c'est ce qui va devenir l'Europa League, donc la Coupe de l'UEFA. Il y aura des différents paliers, un peu comme en Ligue, un peu le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et en fonction du classement, on entrera soit au premier tour, soit au deuxième, soit au troisième, tout ça. Et moi, je pense qu'honnêtement, cette équipe-là, elle peut prétendre à une place. Moi, je sais pas je sais pas ce que tu en penses plutôt, Anne.
Moi, je pense que, oui, bah, pareil que toi, le Déport, moi, je trouve qu'ils font un très bon début de saison. Et le match, je pense que ça reflète aussi la saison qu'il fait, c'est-à-dire c'est une équipe plutôt offensive. Ils ont dominé tout le match, ils ont gagné 4-1, c'est pas une petite victoire, et c'est, pour moi, c'est largement mérité. Et leur place aussi est complètement méritée, et je pense qu'ils peuvent prétendre à une bonne place cette année.
Y a Billy qui avait une réaction aussi un peu sur le Déport.
Je voulais juste dire, ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas vu la Corogne à Paris Fête, quoi. Et la dernière fois qu'ils étaient au top, ils avaient eu leur petite période, au Champions League, ils avaient fait une demi-finale, notamment en 2004, et je crois bien que d'ailleurs depuis cette performance-là, ils avaient un peu disparu de la circulation. Et comment dire, en fait, je viens de me rendre compte quand même, quand on regarde les 7 premiers du classement de la Liga, on a les 7 meilleures
les
équipes.
Les 7 plus gros, hein.
Oui, les 7 plus gros, quoi, voilà. Ouais. Donc, même si le Barça a déjà tué le championnat, plus ou moins, parce qu'ils ont quand même 10 points d'avance. Mais sur le deuxième, et la lutte pour la Champions League va être intéressante, parce que faut savoir, tu parlais du format de l'UEFA tout à l'heure, Marvolo, je pense qu'il faut rappeler aussi que la nouvelle formule de la Champions League, où il y aura les 3 premiers qualifiés directement.
Ouais, c'est ça.
Et le 4e qui sera reversé dans une phase préliminaire avec les meilleures équipes, équipes des pays qui ont le plus haut coefficient UEFA, donc ce sera pas forcément une bonne affaire de choper la 4e place. Par exemple, si le Real chope la 4e place, pourrait rencontrer le Milan, si Milan est 4e de son championnat, pour accéder à la phase de poule de la Champions League. Donc je pense que c'est quelque chose de différent, voilà, et c'est aussi à prendre en compte. Avant on s'en foutait un peu, maintenant c'est quand même beaucoup plus intéressant de rentrer dans les 3 premières places que de viser la 4e place, ça peut être dangereux. Voilà, c'était juste pour rappeler.
Et puis d'ailleurs, comme tu l'as si bien expliqué, c'est que voilà, pour qu'on comprenne un peu la situation en Espagne, donc on a Sevilla, Atlético Madrid, Valencia, Madrid et Villarreal qui se tiennent en 2 points, donc 5 équipes en 2 points. Donc en gros,
Il y a du gros qui va sauter, hein.
Ah, il y a du gros qui va sauter.
Le Real peuvent franchement passer à la trappe cette année, je sais pas, ça doit bien faire.
Moi, je pense pas. Hein. Honnêtement, je pense pas que le Real va passer à la trappe. C'est pas une équipe qui passe à la trappe. Franchement, c'est. De toute façon, ils vont se renforcer encore. Et moi, parmi ceux que je vois en haut, je vois surtout Valence voir le Sevilla décrocher plutôt que le Real Madrid. Hein. Mm-hmm. Mais bon, ça c'est mon petit pari personnel.
Sevilla qui, j'étais en train d'essayer de me souvenir, n'a jamais participé à la Champions League, si non, une fois.
Si, l'an passé, ils se font battre par Fenerbahçe, il me semble.
Ah, pardon.
C'est ça. Au tir au but, ouais.
Excusez-moi, ouais, c'est ça. Mais... pour moi. Je me posais la question, parce que j'ai voyé tout le temps en UEFA.
Mais c'était leur première participation, il me semble bien.
Ça fait. Voilà.
Marv, je voulais te demander, qu'est-ce que devient un joueur comme Valerón, qui a été quand même un joueur historique dans le football espagnol, notamment toute la période entre 2000 et 2003, il me semble, avec les Ligues des Champions de la Corogne. Qu'est-ce qui devient? Est-ce que c'est sa dernière saison? Là, il est plus titulaire, il me semble, dans sa...
Non, il est plus du tout titulaire, et puis malheureusement, il vieillit. Hein. Ouais. Il continue de vieillir, et puis...
C'est un joueur qui
est dommage.
Quand même... Ouais, voilà, c'est quand même un joueur
c'est mythique, dommage.
Je trouve. Ouais, c'était quand même...
Et puis c'est un joueur d'immense classe. Mmh. Après, ça dépend, il y en a... C'est pas... Le problème, c'est que c'est ce genre de joueur comme ça qui est un peu sous-coté lors de leur meilleure période. Et du coup, ils passeront rapidement à l'oubli. Ils vont vraiment rapidement être oubliés par les supporters. Alors que, mine de rien, à son top, c'était un des 5-6 meilleurs joueurs à son poste. Et c'est franchement dommage de le voir comme ça. Là, il est en train de galérer énormément. Bon, c'est ça. Hein, faut pas...
D'accord. Bon, merci. Mmh. Parce que c'était un joueur que j'avais gardé toujours un très très bon souvenir. C'était moi l'emblème un petit peu des années espagnoles du début 2000. Donc c'était pour ça que je voulais avoir un peu de nouvelles. Vas-y, on peut continuer sur les matchs de cet après-midi.
On va enchaîner donc avec Gijón Almería. Victoire 1-0, but de Maldonado. Moi, pour le coup, ça c'est un match que j'ai absolument pas suivi. Donc je vais plutôt laisser Anne s'en occuper.
Donc moi j'ai regardé un petit peu le match. Je pense pas que l'Almeria il mérite la défaite. Il y a un pénalty qui est non sifflé et un but valable qui est refusé pour l'Almeria. Donc c'est dommage parce qu'en fait cette défaite ça met Alconada sur la sellette et je crois qu'il a été viré même après.
Non, il a été viré, ouais, il a été viré en...
Donc ils ont viré leur entraîneur parce que c'était 11 matchs en gagné si je me souviens bien. Donc c'est dommage parce que je pense pas qu'il mérite vraiment la défaite sur ce match-là.
Arconada, du célèbre Arconada.
Ouais.
Ok, très bien. Mm-hmm. Je viens d'apprendre une chose. Ok.
Mais par contre, le seul truc moi qui m'a fait un peu chier, c'est que j'ai pu voir les déclarations et puis comme d'habitude, il est en train de faire sa larmoyante. C'est notre cause d'être à nous en Espagne. Il est tout le temps en train de chialer. Et moi, pour le coup, c'est le seul truc qui va pas me déranger de fait de savoir qu'il est licencié parce que. Les entraîneurs qui parlent que d'arbitrage après coup, c'est franchement très chiant. Donc, prends soin de toi et adieu.
Je voulais te demander un truc. Comme là, on a parlé de Malaga tout à l'heure contre Séville, on a parlé de Osasuna. Est-ce que vous auriez un pronostic, vous deux, un petit peu sur les trois qui seraient vraiment susceptibles de descendre? On a parlé aussi de l'Espagnol. Ils sont quand même vraiment mal au classement. Là, on parle de Almeria. Donc, est-ce que vous avez quand même, on va dire, vos favoris un peu pour la descente, vous? D'abord toi Anne, est-ce que t'enverrais déjà trois qui se démarquent?
Ouais, moi je vois l'Osasuna qui descend, l'Almeria et après pour le troisième peut-être l'Espagnol. Mais c'est encore serré aussi, hein, comme on disait que c'était serré entre le deuxième et le sixième je crois, mais c'est pareil hein, pour le bas du classement.
Tu vois pas où elle va descendre?
Non.
Bon, d'accord. Et toi Marvolo?
Ah, moi, où elle va, c'est mon favori à la descente. Honnêtement, c'est vraiment mon favori à la descente. C'est sans Sinama Pongol, c'est plus la même équipe, franchement. Et mais sinon, moi, c'est peut-être Numancia que je verrai descendre parce que c'est pas une équipe qui me convainc, même si aujourd'hui ils font un match exceptionnel. C'est franchement pas une équipe qui me convainc. Franchement, à chaque fois que je les vois, je me fais chier. Il n'y a pas de joueur qui ressort, à peine Barquero, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais sinon, moi, c'est Numancia et Huelva que je vois. Mais après, pour le troisième, c'est toujours très, très tendu. Et j'ai un peu du mal à voir une équipe qui se détache.
Ok. Bon.
Tu vois le Numancia descendre?
Ah, moi, je les vois descendre, ouais.
Ils ont fait un gros match aujourd'hui.
Ils ont fait 5 minutes énormes.
Ouais,
5 minutes. Hein. Pour moi, je mets plus ça sous le coup d'un craquage de Valladolid qu'un exploit de Numancia parce que quand tu joues contre un promu et que à 5 minutes de la fin tu gagnes 3-1, tu peux pas perdre. Ils ont trouvé le moyen de perdre. D'ailleurs, de toute façon, la transition est faite, donc on va enchaîner avec ce match-là. Donc Numancia-Valladolid. Numancia qui gagne 4-3, il perdait 3-1 jusqu'à la 85e. À la 85e, il y a Del Pino qui marque 3-2, Aranda la 87e qui égalise et Gorka Brit qui marque le but de la victoire. Franchement, là pour le coup, moi je te dis, sur ce que j'ai pu voir, c'est du craquage monumental de Valladolid parce que c'est pas possible. C'est franchement pas possible de perdre un match quand on gagne 3-1 à 5 minutes de la fin.
Ouais, c'est vrai.
Juste sinon, un petit interlude sur ce match. Il y avait avant que tu finisses, Marvolo, il y avait une petite réaction sur Walva. Tu t'en parlais tout à l'heure de Pierrot.
Ouais, dis que sans Cinema Pongol, c'est plus la même équipe, mais faut quand même souligner que Adrian, il fait des bons matchs et surtout il retrouve le chemin des filets.
Bah le truc c'est que je sais pas, c'est que moi je le trouve honnêtement pour la Liga, moi je le trouve trop léger ce joueur-là. Après moi je sais pas toi qu'est-ce que toi tu penses quoi vraiment de ce joueur-là, parce que moi je vois pas pourquoi ce joueur-là plus qu'un autre va te convaincre.
Bah je me dis que là à l'heure actuelle, il est peut-être lancé pour de bon.
S'il a marqué que 4 buts, c'est pas franchement un gars qui je sais pas moi mine de rien, je pense que si tu veux pour toutes les équipes rivales, donc tu as quand même des buteurs un peu plus en forme. Osasuna, mine de rien, ils ont un gars qui s'appelle Pandiani. On le connaît tous de réputation, c'est ce que ça vaut. Il est toujours capable de te marquer les buts. L'Espagnol, ils ont Luis Garcia et Tamudo. Mallorca, ils ont au milieu de terrain Arango qui peut faire très mal. Donc voilà, c'est. Tu vois, en comparant, je pense que ce joueur. Que c'est pas juste avec Adrian qu'ils vont pouvoir se sauver, mais après tu vois, encore une fois, comme je dis, c'est juste mon point de vue.
Bon, ma foi. Donc tu étais en train de parler du match Numancia-Valladolid.
Ouais, c'est ça. Bah moi franchement je le vois comme un énorme craquage. Après je sais pas toi comment tu l'as vu.
Ouais, pareil en fait, ouais, c'est vrai, mais ils nous ont fait un peu comme Monaco aujourd'hui, mais bon.
Bah ouais, moi, je pense, c'est ça ce que je voulais dire, c'est moi honnêtement, c'est que je t'avoue que quand tu vois le. Quand tu. Si vous. Je vous demanderai plutôt d'aller voir le résumé, c'est toujours super important, enfin important, non, c'est super intéressant de voir ça et tout, parce que on voit. C'est un peu ce que. Ce que nous rabâchent tous les plus anciens, ceux qui ont connu le foot, le foot qui précède notre époque, où on voyait souvent des remontées comme ça, des trucs comme ça. Alors que moi, pour le coup, qui suis plus fan d'un football tactique, enfin tactique, quand je dis tactique, je parle pas de Coréa, ça me fait chier de voir une équipe prendre 3 buts en 5 minutes. Pour moi, c'est pas possible. Je suis désolé, je trouve même pas de mots pour vous expliquer tellement c'est quelque chose qui m'a agacé honnêtement. Alors que je suis même pas fan de Valladolid, mais c'est franchement c'est horrible. Hein. Même s'il faut savoir que Numancia c'est le 3e match de suite qu'il gagne en remontant. Donc à chaque fois il perdait, que ce soit contre l'Espagnol ou l'Almeria, il perdait toujours 1-0 avant de remonter et de gagner 2-1. Donc mine de rien on peut penser que ça peut les sauver, même si moi je suis pas convaincu, hein, franchement.
Marc, je voulais te demander, je voulais pas te demander vraiment, mais ça me fait rigoler quand je regarde le banc de Valladolid, je vois Ogbeche sur le banc, ça me faisait rigoler. Adrien, tu dois te rappeler de lui, donc.
Il fait rigoler, hein.
Pas que des très bons souvenirs. Ouais. Pas que des très bons souvenirs d'ailleurs.
En tout cas, il est très marrant, hein, Ogbeche. Hein.
Voilà, c'était pour ça que c'était
pour la Et puis par rapport à ce que je disais un peu plus, c'est que ça me revient. Le truc, c'est qu'il faut pas oublier que Valladolid, c'est un peu l'équipe qui allait battre quasiment tout le monde, hein, tous les gros. Donc ils ont battu Villarreal 3-0, ils avaient battu le Real aussi. Donc voilà, c'est un peu ça moi qui m'avait dérangé. Mais bon, après c'est le foot comme on dit. Et donc on va enchaîner avec les deux matchs de la soirée, donc Villarreal Barcelona pour commencer. Cani qui a ouvert le score à la 47e avant que Seydou Keïta égalise et que votre Titi national offre la victoire.
Donc, t'as failli dire le nôtre.
Non. Oula non.
Mais ils ont bien retourné la situation le Barça quand même. J'ai justement vu un quart d'heure du match et vu que les buts ont été marqués à la suite là.
Bah écoute, en première mi-temps, si tu veux, en première mi-temps, bon, il y a Bebe Rossi qui offre un ballon au public, c'est pas possible aussi, il a raté une action énormissime, mais énormissime. Et en regardant le match, moi personnellement, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir un but sur chaque contre-attaque. Parce que franchement, il y a très peu eu de jeu qui s'est développé au milieu de terrain. Ça passait d'un camp à l'autre. Et là, en deuxième mi-temps, par contre, on a pu assister à la domination du Real, petit à petit. Donc, Anne, tu voulais dire quelque chose, donc vas-y.
Ouais, pour moi, Villarreal, ils avaient largement les moyens de faire match nul, voire de s'imposer. Il y a eu un gros manque de réussite pour Villarreal. Il y a aussi l'égalisation, c'est sur une erreur de Diego Lopez. Donc,
c'est clair.
Il fait une mauvaise sortie. Donc, ce qui permet au Barça de revenir à égalité. Et après, le but de Thierry Henry. Et ça leur permet d'avoir 10 points d'avance sur le second. Donc c'est bien. Mais je pense que Villarreal avait quelque chose à faire ce soir et ils sont passés à côté.
Diego Lopez, juste pour revenir sur un truc sur Diego Lopez. C'est quand même marrant parce que ce gardien-là, il est exceptionnel. Contre les petits et contre les gros, il est toujours très, très, très moyen. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais malheureusement, c'est un gars qui va te sortir 5-6 matchs de très bon niveau et puis il va se vautrer sur le 7e. Et malheureusement, comme ça tombe sur un gros, on la voit bien, cette bourde. Mais sinon, le grand enseignement du match, c'est que Villarreal est en train de marquer le point. Ils n'arrivent pas à passer ce qu'ils appellent ici le tour d'Espagne, donc c'est la conjonction des quatre équipes. En gros, c'était comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans le tirage au sort, toutes les équipes rencontreront tour à tour. Donc alors Séville, le Barça, le Real et ensuite Villarreal. Là, c'était un peu autour de Villarreal et ils sont en train de perdre pas mal de points.
Marvolo, je voulais te demander, quand je vois là, pourquoi Ibagaça il est parti sur le banc? Je pensais qu'il avait quand même une place de titulaire dans cette équipe de Villarreal.
Ouais, moi je pense aussi parce que moi j'aurais, pour ce match-là, quand on sait que le Barça c'est des bons tripoteurs de ballon, j'aurais plutôt mis, c'est paradoxal parce que Cani met un but, mais c'est celui que j'aurais éliminé. J'aurais plutôt mis Ibagaça au centre et j'aurais donné le couloir droit à Pires. Mais à mon avis, faut pas oublier que ce gars-là, on l'appelle le petit Riquelme. Donc c'est dans les bons comme dans les mauvais côtés, c'est un mec super irrégulier qui joue à l'inspiration et à l'affectif. Donc à mon avis, si Pellegrini l'a pas mis, c'est que à l'entraînement, il a pas dû être bon cette semaine.
D'accord. Et du côté du Barça, je vois Busquets, c'était titulaire, alors que un mec comme Leb, c'était l'occasion pour lui d'avoir une place dans ce poste de meneur de jeu gauche. Là, il a même pas eu l'occasion d'être titulaire, donc il risque bien de faire beaucoup. Enfin, à ton avis, il risque de cirer le banc longtemps encore à Barcelone?
Ben non, en fait, le problème, si tu veux, c'est que Leb. Il ne le voit, enfin, sur ce que j'ai pu comprendre, c'est que Guardiola ne le voit pas comme dans cette ligne-là, si tu veux, parce que le Barça, donc voilà, il joue avec deux lignes de trois, donc les milieux de terrain puis les attaquants, et lui, il le voit plutôt comme alternative à Henry. Et donc, du coup, pour ce poste-là, donc pas vraiment de milieu offensif gauche, non. Moi, je mettrais plutôt à la limite de relayeur gauche, plutôt, parce que ça joue en fait avec un récupérateur pur et dur, et puis deux relayeurs. Et à ce poste-là, il lui donne vraiment aucune chance. C'est souvent Busquets ou Gudjonsson qui joue. Donc voilà, Leb, il est mine de rien. C'était un transfert qu'on voyait tous super judicieux. Et c'est en train de se retourner contre lui parce qu'il joue quasiment pas. Et les rares fois où il joue, il est pas très très bon.
Ok, bon, d'accord. On est.
Sinon, juste un dernier truc sur ce match-là. Sauf si Anne, bien sûr, a un truc à rajouter plus tard, c'est que il y a quand même un énorme déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit de l'équipe. Hein. Donc le côté gauche, ça joue donc avec Abidal. Normalement, ça joue donc avec Abidal, Iniesta, Henry quand Iniesta joue. Donc c'est bon, mais c'est pas trop ça. Mais par contre, côté droit, c'est Alves, Xavi et Messi. Et là, c'est du très 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 haut niveau. J'avais
trouvé Xavi, il a fait un très bon match. Hein.
Ah bah Xavi, c'est Xavi, hein, c'est ça. Moi j'avais dit à titre personnel. D'ailleurs, je te relance là-dessus. Moi j'avais dit que Xavi c'était le joueur le plus important du Barça. Toi, qui tu vois dans ce dans ce rôle-là.
Moi, je vois Xavi aussi parce que, enfin, à chaque fois ce qu'il fait, c'est impressionnant ce qu'il donne. À chaque fois, on parle de Messi, mais pour moi, Xavi, il apporte beaucoup plus. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé aussi que Messi, depuis quelques matchs, je le trouve de plus en plus en retrait. Il fait pas des matchs excellents, il fait des matchs plutôt moyens. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Bah oui, puis surtout le problème c'est qu'il répond de manière négative aux critiques. Il y a un peu tout le monde qui est en train de lui taper dessus. Donc Cruyff, Cannavaro ou alors Cazorla et Senna.
Ouais.
Même si bon, je t'avoue que moi la critique de Cannavaro elle m'a fait vraiment rigoler parce que bon, quand tu fais pitié, tu évites de parler d'un des meilleurs joueurs du monde. Et d'ailleurs, la réponse de Messi a été plus que claire. Il lui a dit, moi, je te recommande de commenter plutôt ce qui se passe dans ton équipe. Donc voilà, ça c'était bien. Ça, c'est
par
dit.
Contre, j'ai trouvé les réactions de Cazorla et Senna plutôt légitimes, dans le sens où ce sont les deux joueurs qui reçoivent le plus de coups.
C'est ça.
Bah, quand on est via
Senna, on en parle. D'ailleurs, c'est ça, c'est que Senna en premier, donc pour la stat, c'est Senna premier, Cazorla deuxième, Villa troisième, il me semble, et Messi quatrième. C'est les joueurs qui reçoivent le plus de coups. Ça peut paraître paradoxal de voir Marcos Senna en premier, mais faut savoir que c'est le premier lanceur de l'équipe, c'est celui qui initie quasiment toutes les contre-attaques. Ah,
tu parles du nombre de fautes subies, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah ouais, c'est pareil, Gattuso, il est toujours en tête des stats, ou dans les premiers, tu vois, en Serie A, donc, voilà, c'est les joueurs par
qui ils passent beaucoup, que...
qui vont beaucoup au combat, quoi.
Non mais à la différence que Senna, tu vois, il construit plus de jeux que Gattuso.
Ouais, bien sûr.
Indéniablement. Mais sinon là où le Barça franchement m'a vraiment impressionné aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait une Villarreal. C'est que Villarreal, c'est les spécialistes pour les retournements de situation. Et là le fait de justement de remonter Villarreal à domicile, j'ai trouvé ça franchement très fort. Et puis donc voilà, je confirme ce que j'ai dit la semaine dernière. Et même il y a deux semaines, la Liga est déjà terminée.
Oula, non.
Tu veux que je te ressorte la stat?
Non, mais enfin... Hein,
non, mais tu te laisses baigner par la douce euphorie madrilène, mais...
Non, à mon mais enfin... Honnêtement, je pense pas que la Liga est terminée, parce que moi, j'attends de voir le Barça jouer contre des grandes équipes qui sont en forme. Et je pense pas que ça soit encore arrivé. Et il reste beaucoup de matchs et il y a beaucoup de points qu'ils peuvent perdre encore, parce que là, comme j'ai dit, Villarreal, ils peuvent gagner le match. Hein. On avait en plus les deux équipes qui, pour moi, balle au pied, sont les meilleures de la Liga. Et on s'attendait à un grand match. Moi, je m'attendais vraiment à un match plus mouvementé. Je me suis un peu ennuyée. Mais je pense pas que la Liga est déjà terminée.
Bah écoute, moi, il y a un truc que tu as dit que je comprends pas, c'est le en forme. Je sais pas si tu as vu tous les derniers matchs du Barça, parce que justement ils ont donc joué les grosses équipes. Et le truc c'est que contre les grosses équipes, ils les prennent très souvent à la gorge super tôt, comme on a pu le voir contre Valence, comme on l'a pu le voir contre l'Atlético Madrid, on l'a vu aussi contre le Real. Là aujourd'hui, ils ont eu un peu plus de mal parce que comme tu l'as dit, Villarreal c'est l'équipe qui tripote le mieux le ballon avec le Barça. Donc ça a mis plus de temps à se mettre en place. Puis l'absence de Yaya Touré a été quand même assez net.
Justement, Marvolo, je te coupe deux secondes.
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu as une explication là pourquoi Keïta était titulaire à la place de Yaya Touré aujourd'hui?
Je pense qu'il y a mis un petit turnover, un peu de fatigue. D'accord. Sur les derniers matchs.
Mais ça reste néanmoins Yaya Touré le meilleur des deux, indéniablement, tu me confirmes?
Ah ben c'est net. C'est net. Dans l'équipe type du Barça, Yaya Touré, ça c'est indéniable. Au même titre que les Xavi, Henri Eto'o, Messi et compagnie, c'est un indéboulonnable de l'équipe.
D'accord.
Mais le truc, c'est que moi, je suis pas d'accord par rapport à ce que tu dis, parce que contre une équipe comme l'Atlético Madrid, par exemple, lors du match contre l'Atlético, plutôt, ils se sont pris 3 buts en 10 minutes. Donc, je sais pas si tu peux vraiment dire qu'ils étaient pas en forme, mais c'est sûr que quand tu commences en mettant 3 buts à une équipe...
Bah, encore là, tout le monde s'attendait à ce que l'Atlético fasse un gros match. Ils sont passés complètement à côté du match. Après, moi, je trouve que le Barça, ils ont très très bien commencé. Pas très bien parce que ça commence par une défaite, mais ils ont enchaîné les grosses victoires, etc. Et petit à petit, j'ai l'impression que, au contraire, ils sont de plus en plus abordables pour les autres équipes.
C'est vrai qu'on voit de moins. Pour confirmer ce que tu dis, de mon œil, que de loin, en tant qu'en France, habitant en France, donc on voit un petit peu de loin tout ce qui se passe en Liga, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup moins en ce moment de gros scores du côté de Barcelone. Par un moment, c'était vraiment, comme tu disais Marvolo, ça allait de 5 ou 6 buts en 6 buts, quoi.
Bah, il y a une explication très simple, ils ont joué les plus grosses équipes en ce moment. Tout simplement, il n'y a pas à chercher plus loin. Ils viennent d'enchaîner Sevilla à qui ils ont collé 3-0. Puis ils ont avant ça, d'ailleurs c'est un peu marrant ce que tu dis parce que je te ressors les 4 derniers matchs en championnat. Ils collent 4-0 au Barça, puis ils collent 3-0 au Sevilla, 2-0 à Madrid et puis là 2-1 face à Villarreal. Je pense que quand on joue contre les grosses équipes du championnat et qu'on les massacre comme ils viennent de le faire, je suis pas sûr que c'est un peu logique parce que je vois, il y a aucune équipe au monde qui est capable d'exploser Valence, Séville, Barça et Barça, Madrid et Villarreal. Donc c'est pas forcément judicieux de dire ça vu qu'ils ont joué les grosses équipes en ce moment.
Donc toi t'affirmes réellement que Barcelone sera champion
La prochaine journée, je sais plus qui ils jouent, enfin à la rentrée plutôt. Ils joueront pas une grosse équipe et là je pense que là aussi ils vont recommencer à mettre des gros scores.
D'accord. Bon. Je pense que t'as été assez complet sur ce match-là et je pense que tu vas pouvoir passer au prochain et au dernier match de ce soir.
Donc c'était
juste pour finir ce que tu disais, c'est Barcelone rencontre Mallorca le 3 janvier à domicile au New Camp.
Pardon.
Barcelone rencontre Mallorca le 3 janvier au New Camp. Pour la prochaine
et puis, mais il y a surtout un très beau Real Madrid Villarreal.
Ouais,
le lendemain, il me semble.
Effectivement, ouais. Exactement.
Avec la Sana Diarra du côté du Real.
Et un beau Valence Atlético Madrid aussi qui s'annonce. De belles affiches.
D'ailleurs, c'est bien, j'avais complètement zappé le sujet. On va en parler de la Sana Diarra. Donc, qu'est-ce que tu en penses?
C'est officiel?
Heureuse!
Ah, qu'est-ce que j'en pense?
Heureuse.
C'est pas le profil, c'est pas. Il est déjà pour moi, il est surcoté. La Sana Diarra pour moi, il est largement surcoté. C'est pas le profil dont on a le plus besoin au Real en ce moment. Dans l'attitude qu'il a eue depuis que le Real s'intéresse à lui, j'ai pas particulièrement aimé et je me demande vraiment ce qu'il va pouvoir apporter au Real Madrid en ce moment.
C'est officiel l'arrivée de la Sana Diarra.
C'est officiel. Demain. Il serait présenté lundi. Voilà. D'accord. À 1h. Ouais. Et sur le
6,
et déjà...
il y a même le numéro qui est déjà connu, il aura le 6, celui de Diarra, vu qu'il jouera plus de la saison. Et voilà quoi, mais 24 millions d'euros. On ne connaît pas exactement le salaire, mais apparemment, il se dit qu'il aurait énormément baissé ses exigences. Faut savoir que ce qui a beaucoup freiné ses exigences, c'était que. Il attendait un petit peu de savoir ce qui allait se passer avec Manchester City. Et dans le même temps, il y a eu un petit accrochage entre Portsmouth et le Real parce que City offrait 5 millions de plus. Et alors, ils ont demandé à Diarra de renoncer à quelques commissions qu'il devait avoir. Bref, mais sinon... Il y a quand même un élément qui me fait vraiment chier dans cette histoire, c'est que City a pas fini de faire chier tout le monde, hein, ça je vous le promets.
Ouais, ça c'est vrai. Et j'aimerais juste finir sur la Sana Diarra pour dire que quand il a commencé à négocier avec le Real Madrid, il s'est plus présenté aux entraînements avec Portsmouth, il s'est plus, enfin. Et je trouvais que c'était vraiment, pour moi, ça résume une attitude comme ça, ça résume le style du joueur.
Donc, le style de personnage.
Ouais, voilà. Et donc.
Ça commence
surtout qu'on a besoin des joueurs qui donnent tout, surtout en ce moment, parce que le Real, c'est un peu difficile ce qui se passe. S'ils font pas une belle saison pour l'instant. Et avoir un joueur comme ça, je pense que beaucoup de personnes sont déçues aujourd'hui.
Bon. Mais par contre, attends, juste un truc. Moi, par rapport à ce que tu as dit, j'ai lu qu'en fait, son absence était autorisée.
Ah. Alors, quel cas, on pourrait confirmer.
Alors, je sais pas, justement, si quelqu'un peut me le confirmer.
On veut pas le savoir, c'est pas normal quand même.
On va le taper quand même, donc oui, c'est une petite garce.
Enfin, ne pas venir aux entraînements et puis se planter un jour avant le match et jouer 30 minutes. Enfin.
Juste, vous parliez là donc du milieu du Real Madrid. Est-ce que Schneider était blessé là? Il sera revenu pour la reprise de la trêve?
Alors là, pour le coup, je vais la laisser répondre parce que j'en ai aucune idée.
Alors moi non plus, mais je pense que oui, parce que vu que c'était juste un problème musculaire, c'était pas très grave, je pense qu'il va revenir après la trêve. Ouais.
Pour moi, ça reste quand même voir le meilleur joueur du Real Madrid après Van Nistelrooy et très influent, donc
c'est ah, non. Non, non. Robin, alors là, pour le coup, je te mets un énorme non. Ah, le plus important, on l'a vu aujourd'hui.
Mais après,
même pas potentiellement, c'est pas le plus important. On a bien vu aujourd'hui, enfin hier plutôt, que le plus important derrière Van Nistelrooy, c'est Robben. C'est indéniable.
Ouais, il a fait un match.
D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as tous les quotidiens ici qui ont mis avec Robben, c'est une autre histoire. C'est indéniable. Je vous invite, moi, à le voir des matchs du Real avec et sans Robben.
Invite-nous, achète-nous les pieds, Marvolo.
Non, mais c'est vrai que Robben, hier, il a fait, enfin, il passait tous les défenseurs, il donnait, mais vraiment des. On se demande encore comment Guti a pu louper des occasions comme ça, parce qu'il passait tout le monde, il donnait une balle, mais. Enfin, c'est, pour moi, c'est vraiment, il est vraiment influent et c'est le joueur sûrement le plus important au Real.
Ah bah, c'est ça, c'est.
Le match face au Barça en est un exemple. Face au Barça, le Real n'a pas pu. Ouais. N'a pas eu de grande action, et donc sans Robben, c'est plus du tout les mêmes.
Ouais. Moi, en plus, par rapport à ça, moi, je regardais le match contre le Sevilla, et quand il se fait expulser, je me suis dit, c'était fini, quoi, que le Real n'avait plus de chance de battre le Barça. Donc,
2 minutes avant, il frappait le poteau, en plus.
Et puis surtout, c'est que par rapport à son niveau avec Chelsea, je trouve qu'il joue vraiment nettement mieux. Hein. Il a appris à lever la tête. C'est quelque chose qui n'est pas si facile à faire.
Demande ça à Ben Arfa.
Même si parfois il fait des mauvais choix, encore quelques mauvais choix, mais c'est vrai que c'est de mieux en mieux.
Ah non, mais les mauvais choix, c'est autre chose. Mais au moins, tu vois, à partir du moment où il a compris que des fois c'est pas une mauvaise chose de passer son ballon, je pense qu'il a fait déjà fait énormément de progrès. Mais moi, je vous le dis, ce joueur-là, c'est vraiment le plus important. Et donc voilà, on va conclure sur le dernier match. Donc Betis Athletic Bilbao, un match tout pourri, où une équipe marque sur une action assez bidon, et puis après, en deuxième mi-temps, il ferme la boutique. Sergio Garcia, qui a raté tellement d'occasions que j'en ai eu envie de casser mon PC. Il a raté énormément d'actions. Sinon, on a l'autre lourdeau de Pavonnet qui, lui aussi, nous fait des contrôles. Dans la surface, il trouve le moyen, je sais pas, pour vous expliquer une action, c'est un 1-2 dans la surface, il est à 7 mètres des buts, il trouve le moyen de contrôler avant de frapper. Ça vous montre un peu à quel point ce joueur-là est super technique. Et puis, voilà, sinon le reste, c'était assez moche. Il n'y a pas grand-chose à dire, même si Casto se trouve un peu sur le but. J'ai plus eu l'impression de voir le Betis de l'an passé. Et pour une raison très simple, il n'y a pas eu les deux meilleurs joueurs du club. Donc, ni Mehmet Aurelio, ni Emana. Et ça, c'est vu. Donc, Anne.
C'est ce que j'allais dire, en fait, que sans Emana, c'était pas le même Betis. Mais bon.
C'est sûr, surtout que quand tu joues avec Arshu, Rivera et Juande, et surtout Juande, c'est horrible. Hein.
Et aussi,
techniquement, c'est très très faible.
Il n'y a eu aucun incident hors du match. Parce que.
Comment
à chaque fois. Il n'y a eu aucun incident hors du match.
Hors du stade.
En fait, pour expliquer ça, il faut savoir que le président de la fédération, Villar, c'est un ancien joueur de l'Athletic Bilbao. Et depuis 3 ans, comme ces deux équipes s'affrontent souvent pour ne pas descendre, on a souvent eu droit, nous fans du Betis, à des vols à main armée quasiment, avec des pénaltys sifflés en fin de match en défaveur, des hors-jeu, des trucs bidons. Et donc l'an passé, par exemple, on avait vu un abruti de Betico qui a balancé une bouteille sur la gueule d'Armando, qui était gardien de Bilbao. Donc il y avait quand même pas mal de crainte par rapport à ce match-là, mais ça s'est passé dans une ambiance assez calme. Oui, Arnaud.
Ouais, moi c'était pas pour parler du Betis, mais juste que tu nous parles quelques mots de l'Athletic Bilbao. C'est un club, je trouve que la mentalité, c'est la mentalité de ce club-là et la gestion du club qui ne veut que des basques. C'est quelque chose que je trouve un petit peu un petit peu encore magnifique dans ce football honnêtement on va dire pourri par l'argent. Je trouve que le fait encore de voir l'identité très très forte dans un club comme ça, c'est, je trouve que c'est vraiment bien. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu de mots et aussi de Echevarria qui était par un moment très 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 fort et là je vois qu'il est même relégué sur le banc, donc lui aussi à l'image d'un Valeron, même s'il avait beaucoup moins de talent, est-ce qu'il est aussi sur la pente descendante?
Ben je vais commencer à répondre donc dans l'autre sens. Donc ouais, Echevarria, ben c'est l'âge en fait qui fait qu'il a moins de temps de jeu, même s'il joue encore souvent, hein, faut pas croire. C'est juste qu'ils ont un joueur que j'apprécie énormément qui s'appelle Markel Susaeta. D'ailleurs, c'est lui qui met le but à Javi Martinez. Mais donc voilà, lui aussi, par rapport à Valeron, c'est l'âge en fait. Donc il y a pas, il y a rien de, c'est naturel quoi. Par contre, pour l'Athletic Bilbao, on va rentrer dans ce que j'appelle le paradoxe de Bilbao. C'est parce que d'une, ils ont une politique très très noble qui fait qu'en fait, pour jouer dans ce club, il faut avoir la nationalité basque ou être né soit dans le Pays Basque, soit en Navarre, soit deux autres régions. Et donc, par exemple, on a pu voir un joueur dont j'ai malheureusement oublié le nom, en fait, c'est qui est de père congolais, mais qui est lui né à Bilbao, et donc il joue pour l'Athletic Bilbao. Et d'ailleurs, c'est le premier noir à jouer pour Bilbao. On a pu aussi voir Lizarazu, parce que les Basques français aussi sont pris dans cette équipe-là. Mais par contre, là où il y a le paradoxe, c'est que
autant ils avaient fait pas mal polémique par un moment, il me semble, après son départ pour le Bayern.
Oui, mais le truc, c'est que comme justement Bilbao, comme Lizarazu, ben il est très attaché à sa région. Ça a très vite calmé. Et puis il avait quand même un très bon niveau à Bilbao, même si il était quand même brouillon à l'époque. Mais par contre, là où il y a l'énorme paradoxe, c'est que Bilbao, c'est quand même les plus gros chiennasses de la Liga, sans aucun doute. Faut pas oublier que Bilbao, c'est là qu'a joué Goycochea, qui a blessé coup sur coup Cruyff et Maradona.
Ah oui.
Ouais, et puis par rapport à ça, moi je vous le dis, c'est franchement les plus gros chiennasses. Quand il faut mettre des coups de crampon, ils sont toujours là. Quand il faut mettre des coups de n'importe quoi, ils sont capables de te mettre des coups de cul pour que tu marques pas. Franchement, c'est toujours ça que j'ai du mal à comprendre avec cette équipe là, parce que ils ont franchement une politique qui me fait triper, et je pense qu'ils feront un peu triper un peu tous les amoureux du vieux foot. Parce que le fait de voir justement 11 Basques pour un club basque, c'est quand même très fort. Mais malheureusement, ouais, c'est sur le terrain, c'est des petites chiennes.
C'est quand même une des équipes les plus anciennes de la Liga, il me semble, qui a une des plus grosses anciennetés en Liga avec le Real Madrid.
Il me semble qu'ils ont jamais joué en deuxième division. Donc ça fait environ 80 saisons en première division.
Ah ouais.
Ouais. C'est une des trois équipes qui est jamais descendue. Donc forcément c'est une, mais moi je pense honnêtement que sur les dernières saisons ils ont eu un petit coup de pouce des arbitres qui ont fait qu'ils sont descendus.
Ok, bon, Marvolo, t'as le classement sous les yeux pour nous le faire?
Ouais, donc le classement c'est donc le Barça à 41 points, ensuite deuxième à 10 points Sevilla, Atlético Valence troisième et quatrième, Real Madrid Villarreal, puis ensuite il y a le Deport et ensuite un petit trou et là dans le ventre mou, je vous évite de vous citer ces noms-là, ça ne vous intéresse pas forcément. Et sinon, pour la lutte au titre, plutôt la descente. Donc, on a Almeria 16e, Mallorca 17e, l'Espagnol 18e, Recreativo 19e et Osasuna dernier.
Ok, bon, très bien. Je crois que c'était très complet pour cette partie Liga avec vous deux, Anne et Marvolo, on vous en remercie. Et Anne, donc tu dois y aller, et ben on te dit à très bientôt et merci encore. Salut, salut.
Ok, salut.
Donc on va pouvoir passer maintenant à la Serie A avec Billy, Helvetia et vous tous sur le forum Génération Soccer. Vous êtes encore une vingtaine à nous écouter, on vous en remercie. 1h-10, on va y aller avec un petit rappel des résultats avec toi Billy.
Oui. Il y avait donc ce match je vais suivre en direct avec Arnaud, Milan Udinese et vous avez tous entendu le score de 5-1. Hier soir il y avait un important Siena Inter que l'Inter a gagné 2-1, cependant sur un but nettement en jeu de Maicon, auteur d'un doublé et qui se confirme à mon humble avis meilleur arrière droit du monde tout simplement.
Non Je conteste formellement.
Daniel
je
Alves.
Je place mon petit Daniel Alves.
Non, je place Maicon.
Moi aussi, je suis Billy.
Voilà.
Vous êtes tous incultes.
Non, mais je pense que
non, mais,
peut-être moins la Liga, mais tu suis sûrement moins la Serie A pour pas.
Pour le coup, de
ses performances, truc, c'est que ça fait quand même deux saisons complètes qu'il est tout simplement énorme, quoi.
Je te donne trois stats.
Daniel Alves a toujours joué arrière droit, Marvolo.
Ouais. Et je vais juste te donner des stats justement par rapport à ça. Sur le côté droit, sur les trois saisons qu'il a fait donc au Sevilla, ils sont passés donc de 10 buts en moyenne par match, donc par saison en fait, des buts qui arrivent sur le côté droit. Et les trois saisons où il a joué, c'était donc 22, 24 et 25 buts. Et là, en Liga, ils sont déjà à 17 buts entre lui et Messi. En comptant donc tous les buts qui partaient du côté droit. Et par contre, par rapport à Maicon, là où j'ai vu le match d'hier justement contre Siena. Et donc, c'était un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était surtout sur le deuxième but, là, quand on lui remet le ballon avant qu'il ne
pique
sur
le gardien.
Ouais. Ouais, il était clairement hors jeu, mais sinon effectivement j'ai vu le match et il y a quasiment que lui que j'ai regardé tellement il a été énorme. Ça pour le coup je suis complètement d'accord avec toi. Okay. C'était plus une provocation de rien du tout.
Avec justement dans ce match-là un Carja qui marque toujours contre l'Inter. Lui il choisit, on a l'impression qu'il choisit ses matchs.
Et souvent contre les grosses équipes aussi d'ailleurs.
Ouais. Et la Juve aussi hein.
Oui, exactement. Ouais.
Je vais continuer avec la Juve qui l'emportait 3-1 sur le terrain de l'Atalanta. Tu vois, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est de la Juve, c'est de la Juve pure quoi. C'est-à-dire un terrain où tout le monde galère, où il y a que le Milan qui a gagné cette saison. Et, la Juve va gagner 3-1 tranquillement, sans trop forcer quoi. Bon, faut dire que le premier.
D'ailleurs, j'ai vu le match et
le premier but est entaché d'un hors-jeu. De Marconi, je tiens à le préciser. Je tiens aussi à préciser.
Ah ouais, c'était le week-end des erreurs, un petit peu d'arbitre.
Je tiens à préciser un nouveau but. Ouais, mais moins flagrant que celui de l'Inter. Hein.
Ah oui, on est d'accord.
Et je tiens à préciser aussi le nouveau but encore de Christian Vieri, qui fait toujours plaisir à voir et qui perd pas son sens du but. Bon, c'est plus le Vieri d'avant, mais voilà, il plante toujours, donc c'est cool. Marvolo, tu voulais dire quelque chose?
Bon, en fait, moi, il y avait un truc, d'ailleurs, il y avait deux petits trucs que je voulais dire, moi, sur ce match-là. C'est bon, d'une, c'est incroyable comment dès que j'ai vu le premier but, j'ai d'abord pensé à Billy qui crie, eh ben voilà, encore un nouveau but à la Turinoise. Donc, je pense que tu y as pensé aussi, mais sinon surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est le but de Negrottalier, parce que c'est un mec qui se fait fracasser depuis qu'il est arrivé, et depuis un an et quelques, il est plus qu'intéressant.
Ouais, mais il nous casse les couilles avec ses croyances, quoi. Alors, bon, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais son t-shirt Jésus vive et
j'allais le dire,
Jésus vit, qui montre à tout le stade, à tous les écrans, c'est bon, on a vu, on sait très bien que t'es revenu à un bon niveau. Grâce à Jésus, voilà, on a compris maintenant. Écoute,
Je pense que de ce côté-là, il y en a un qui est quand même un peu plus dangereux.
Oui, on sait, Marvel.
C'est caca, ouais, bien sûr. Non, mais je suis totalement d'accord. Hein. Il casse ses couilles autant l'un que l'autre. Quoi.
Juste, je voulais dire un petit truc sur l'Atalanta, adversaire d'un jour pour la Juventus. Fallait dire que je voulais juste faire un petit topo des rencontres disputées à domicile de cette équipe de Bergame. Atalanta-Siena, 1-0 pour l'Atalanta. Contre Cagliari, 1-0 aussi en faveur des Nerazzurri. 4-2 victoire de l'Atalanta face à la Sampdoria. Atalanta-Lecce, 0-0. Atalanta-Napoli, 3-1 pour l'Atalanta. Atalanta-Lazio, 2-0. Et Atalanta-Udinese, 3-0 pour l'Atalanta. Il y a eu une seule défaite à domicile, c'était contre le Milan. Donc c'était vraiment pour dire que le piège
ouais, non, mais de
Bergamas qui était vraiment réel quoi pour la Juve, on a vraiment vu une très une aisance quoi de la Juve qui a été impressionnante.
C'est ça, c'est impressionnant et frustrant, j'ai envie de dire entre guillemets pour ses poursuivants, moi y compris, parce que et en plus on le sait quoi que la Juve, ce genre de match, ce genre de piège, elle va pas tomber dedans. Et voilà, et c'est vrai quoi, et voilà, petite victoire 3-1, même pas de suspense. Enfin bref, donc du coup elle reste à 6 points de l'Inter. Avant la trêve, c'était important de rester derrière. L'Inter qui assure 8 victoires consécutives. Voilà. Je pense que c'était
assez explicite.
C'était à signaler. Le Milan qui avec sa victoire remonte à la troisième place. Bref, je vais finir sur les résultats de cet après-midi. Il y a la Roma, le match a été diffusé sur Sport Plus ou Canal Plus Sport, qui a perdu 3-2 à Catania, qui perdait même 3-0 d'ailleurs, quoi, avec un doublé de, du japonais Morimoto, notamment. Voilà, pour une fois qu'il y a un japonais qui sert à quelque chose. Ouais, Marvolo qui nous cite que c'est 9 victoires sur les 10 derniers matchs à Juve, ouais, et donc le 10e match c'est la défaite contre l'Inter, bien évidemment.
10 buts pour Amaoli.
11
buts, pardon. 11
voilà.
Buts
pour... Ouais. Et
parce qu'il marque le 3e aujourd'hui.
Ouais, oui, c'est vrai.
Voilà, exact, tout à fait. Ouais. Et Amaoli, comment dire,
qui vient d'être
oui, qui... peut-être.
Voilà.
Tu peux confirmer, quoi, mais qui va sûrement être naturalisé, enfin, officiellement. Italien.
Beaucoup de
et si Dunga l'appelait pour Italie-Brésil.
Voilà, ce serait bien drôle, quoi. Ça va nous faire
Donc, en gros, on sait qu'il va jouer Italie-Brésil, mais pour qui?
De quel côté?
Voilà, exactement. Exactement. Il y a un résultat important, c'est la défaite de Napoli au Torino. 1-0, but de Rolando Bianchi, et voilà, Naples qui devait faire quand même son Hamzik et Lavezzi, et qui perd face à une équipe qui avait besoin de se relancer. C'était le match piège également, et les Napolitains sont tombés dedans, oui.
Je voulais juste dire sur Naples, qui a quand même énormément de mal à l'extérieur, hors de son San Paolo. Autant ils sont intraitables à domicile, mais autant à l'extérieur, on voit vraiment de réelles difficultés pour les Napolitains. Et c'est peut-être ça qui va leur coûter une place dans les quatre premiers. Moi qui les voyais très très bien, et ceux qui écoutent souvent Génération Soccer se peuvent le dire, je vante souvent cette équipe du Napoli, avec un des derniers dispositifs qui existent comme ça, avec une défense à trois quand tout le monde d'attaque, avec des Manini sur le côté, des Maggio aussi, de très 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 bons ailiers, et Naples hors de ses bases, c'est vraiment pas le même Naples. Alors en plus, sans Lavezzi et sans Hamzik, c'était vraiment très compliqué, mais c'est peut-être ce qui pourrait coûter, on va dire, au Napoli une place dans les quatre,
voilà.
Ces mauvais résultats à l'extérieur.
Tout à fait, parce que rappelons que les places en Champions League seront chères encore cette année, vu qu'il y a beaucoup de monde qui prétend, dont la Fiorentina, qui s'est imposée à la Sampdoria de Gênes 1-0 grâce à un but de Riccardo Montolivo qui a réussi à acquérir une certaine régularité après
tout ce temps. Pour la première fois sur le podium, la Viola de la saison, avec 32 points.
Alors, c'est un podium à 4 places, me dit-on.
Oui, bah, oui.
Ah oui, tu es dans la zone Champions League.
Voilà, c'est ça, excusez-moi, je me suis mal exprimé.
Il n'y a pas de souci. Et puis, pour ce qui est des matchs sans trop d'intérêt, il y avait la Lazio qui, hier, à 17h, s'est imposé 1-0 face au Palermo, avec un but de Tommaso Locchi qui n'avait pas marqué depuis un petit moment, et puis éclipsé notamment par Zarate, et enfin Cagliari Regina, un but partout, et le Genoa qui l'emportait au Chievo Verona, qui gagne pas souvent à l'extérieur, le Genoa, et qui gagne grâce à un but de Ruben Oliveira,
sans Diego Milito, leur meilleur buteur.
Ruben Oliveira, une vieille connaissance de Marvolo. Voilà, et je pense qu'il se rappellera de...
D'ailleurs, une question là-dessus, il donne quoi ce joueur-là? Parce que moi, je l'aimais bien, ce Turugué.
Alors, c'est un joueur mystère, parce que quand même, avec Capello, il jouait soit ailier, donc dans le 4-4-2, Capello et Quintino, ou même, je l'ai vu moi, milieu central. Mais il est listé comme attaquant au Genoa, et il joue visiblement attaquant. Donc... donc
pourquoi, qu'il pas, avait, hein.
Pourquoi pas. Entre temps, il avait été envoyé en prêt, il est reparti se ressourcer une année chez tes potes uruguayens, Marvolo, et puis il est revenu cet été. Gasperini avait dû l'avoir peut-être à l'époque, vite fait dans la Primavera de la Juve, ce serait pas étonnant. Je pense qu'il a, il a dû faire un petit passage à son arrivée. Voilà, donc si on veut approfondir les résultats, je pense que... Ah si, il y avait Lecce et Bologne, il y a 0-0. Voilà, quoi. Super. comment dire, oui, si on veut approfondir ces résultats, ben voilà, donc le truc important à retenir ce week-end, c'est le Milan qui retrouve la 3e place après, et qui s'est rassuré ce soir, même si une victoire 5-1 contre l'Udinese est en pleine crise, ne peut pas être pris comme match référence selon moi. Je pense que Helvetia va me confirmer.
Oui, j'ai pas entendu la question, désolé.
Non, je voulais juste te dire en fait que une jolie victoire, mais face à l'Udinese, ça peut pas être pris comme référence.
Ah oui, voilà. Oui, donc oui, j'ai vu pas mal de monde s'enflammer sur cette victoire. Le jeu du Milan est retrouvé. Le Milan a fait son meilleur match de la saison. C'était exceptionnel. Non, rien à voir. C'est juste que oui, le Milan a été bon, a produit un jeu correct. En face, l'Udinese était très 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 faible. C'est pas l'Udinese du début de saison qui jouait un peu les troubles fêtes. Et qui n'a ça a rien à voir. Ça, l'Udinese, c'est juste en 7 matchs et 6 défaites.
On voyait le regard hagard justement de Di Natale après le troisième but milanais en 20 minutes, qui en disait long sur la sale soirée qu'il allait vivre ce soir. Et comme vous le dites, il voyait déjà là que son équipe était vraiment pas dans un bon jour. Alors pourtant il met un joli but hein, sur une belle place de Quagliarella.
C'est extérieur, ouais. Magnifique. Ouais,
ouais. Abiati ne peut strictement rien faire, mais ça se sentait même des. Je vous dis, le match s'est plié en 20 minutes, donc c'était difficile de dire très tôt. Ça s'est vu que Milan allait se balader ce soir, mais effectivement, ça s'est vu. Et en 20 minutes, on pouvait presque éteindre notre télé, on pouvait être sûr.
Oui,
on pouvait
oui, être donc sûr. Faut rappeler rapidement que. Donc il y avait 3-1 au bout de 20 minutes de jeu et que Beckham a été présenté et a fait une entrée triomphale dans le stade San Siro, acclamé. Et ensuite on l'a vu en tribune tout le long du match.
Regardez, affreux. Voilà. Cette entrée là, on aurait dit Dieu qui rentrait à San Siro.
Voilà. Ouais.
Tapait
oui,
les mains.
C'était un peu
ses petits enfants.
Oui, non, c'est...
En plus avec son écharpe du Milan. C'est...
Ah c'était affreux, mais ah mais. Oh enfin bon.
Là c'était un peu.
Ah oui, voilà, c'est Dieu qui rentre vraiment, dans son antre.
Non, mais c'était vraiment le spectacle,
ouais, le show.
Voilà, j'aurais dû dire le show, ouais, le show à l'américaine, voilà, c'est ça. Quoi. Genre le Super Bowl, tu vois, des trucs comme ça, tu vois.
Ouais, non, oui. On se serait cru dans un truc de catch ou quelque chose comme ça.
Ah, exactement. Bon. Et donc après, on l'a vu. On sait déjà que Victoria a fait du shopping toute l'après-midi. Donc
elle commence à remplir quelques valises. Elle les a amenées vides. Elle veut bien les remplir.
Voilà, pour ceux que ça intéresse, elle a été rendre visite à ses amis créateurs de fringues et de bijoux à Milan. Donc,
juste, je voulais dire, un gros coup dur, on ne sait pas encore sur la gravité.
Elle avait des talons hauts, c'est ça que tu voulais savoir. et des porte-jartelles.
Non, je reviens surtout au foot pour l'Udinese. Gros coup dur entre la blessure de Quagliarella à la mi-temps et la blessure aussi après de Floro Flores, les deux des trois meilleurs buteurs de l'Udinese cette première partie de saison, qui se blessent. On n'en sait pas encore sur leurs blessures, mais ça pourrait. Heureusement que la trêve arrive pour les Bianconeri.
Et pour revenir rapidement sur le match, moi, je voudrais noter les choses positives que j'ai eues, parce qu'il y en a eu quand même dans un certain cas. Il faut dire qu'il y a eu des choses négatives, il n'y en a pas eu des masses, mais on préfère, après la période qu'on vient de vivre, on préfère rester prudent, bien évidemment. J'ai bien aimé Jankulowski au milieu, ça, c'est un poste qui lui correspond bien à ses caractéristiques, ça les a bien mis en valeur, c'est-à-dire la combativité, la grinta, et on a moins vu, bien sûr, ça met moins, ça reflète moins ses limites défensives également. Et j'ai bien aimé aussi, mais bon, ça. Je ferai confiance les yeux fermés. Alors peut-être on va dire j'abuse, mais le match de Favali, que je trouve que c'est un bonhomme sur qui on peut toujours compter. Et puis moi honnêtement, même s'il y a eu un petit accrochage avec Quagliarella en début de match, et puis ça c'est pour Marvolo, on a vu que Maldini avait encore toutes les raisons et d'être aligné en titulaire en défense centrale de l'équipe du Milan, parce que il a encore fait un très très bon match où il a fait valoir son expérience.
Je voudrais rajouter Luca Antonini qui a été comme à chaque fois qu'il est remplaçant soit en UEFA soit en Coppa, très 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 bon, que ça soit sur l'apport offensif, vraiment très intéressant, et même sur le plan défensif. Bon, il est à l'origine quand même du but dans une mauvaise relance sur le but de Di Natale, mais je l'ai quand même beaucoup bien aimé, moi. Je trouve qu'il apporte vraiment une dynamique, comme on a une pénurie d'ailiers à Milan. Si les latéraux peuvent en profiter et pour s'illustrer, c'est vraiment bien.
C'est une solution plus que valable pour Zambrotta, enfin pour remplacer Zambrotta, et on se rend compte que Zambrotta finalement a peut-être de la concurrence sur son côté droit, et espérons qu'Ancelotti va le prendre en compte, et pourquoi pas recaler Zambrotta à gauche et Antonin à droite et faire monter Jankulowski au milieu en attendant, enfin pour combler la blessure de Gattuso, ça peut être une des solutions, c'est intéressant. Faut aussi noter le bon match de Pato.
Ouais. Moi qui dit toujours qu'il le qualifie comme très très inefficace, alors là il m'a contredit totalement. Ouais. Une passe décisive, deux buts, vraiment ouais. Bravo.
Deux buts qu'il a, bon il a juste à la.
Oui, mais
oui. C'est au fond, Inzaghi, mais ces deux buts-là, on n'en parle pas. Voilà. Ouais. Mais par contre, sur le deuxième but, il fait un superbe action côté droit, il met dans le vent en défense du Niazé, puis en plus,
il sert bien.
Ouais, Kaka qui a fait un bon match aussi. Par contre, Ronaldinho,
transparent.
Parce qu'on avait, ce qu'on a vu quand même fort, c'est juste que face à une défense comme celle de l'Udinese, qui est pas très en confiance, qui n'est pas aussi très rapide, c'est ça passe avec Kaka et Pato, ça passe très facilement et les il y a au moins 3-4 buts qui sont dus à cette prise de vitesse de la défense et
tout à fait
Kaka et Pato sont les plus rapides de l'équipe et donc ça s'est vu directement.
Là c'est tout ce qu'on dit, il faut que ça reste bien dans son contexte, c'est-à-dire un match contre l'Udinese, une équipe en crise avec une défense très moyenne. Et d'ailleurs, voilà, les noms Felonetti, Lukovic, Domit, Sissa, là, ça ne doit pas dire grand-chose pour beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que c'est moyen, si ce n'est pas bon. Et voilà, donc ça reste Udinese, on est bien d'accord. Mais voilà, Kaka a fait un bon match alors qu'il est censé être blessé aussi, enfin ou diminué, donc où c'était intéressant aussi.
Pirlo Ronaldinho aussi est bien revenu. Pirlo, que bien c'est retrouvé. Le meilleur match depuis le Torino qu'il est revenu.
Et Seedorf qui a marqué, je suis très content pour lui parce que c'est un joueur qu'on critique facilement. C'est clair, il donne toujours une impression de suffisance sur le terrain, mais c'est quand même un joueur qui, à 32 ans, doit être aligné dans l'année à les 19 matchs sur 20 depuis son arrivée au Milan et qui, forcément, au bout d'un moment, commence à être un. À être transparent, quoi. Là, il va avoir 33 ans et voilà, je suis content qu'il ait marqué. Ça me fait plaisir pour lui parce que c'est un gars qui a encore été aligné constamment par Ancelotti et qui, bon an mal an, essaye d'être à la hauteur. Et cette saison, on sait que ça a été difficile pour lui. Et puis, donc, Ronaldinho, par contre, il a été, comment on dit, éclipsé par ses deux compères brésiliens. D'ailleurs, on l'a vu peut-être un peu trop tôt d'ailleurs en début de match même. Moi, j'ai le souvenir d'une frappe qui passe pas mal à côté du but et après le 3-1, j'ai l'impression qu'il avait déjà envie de mettre son but pour se faire plaisir. Enfin, c'est voilà quoi. Donc du coup, on se sentait un peu éclipsé par ses compères, non?
Bon, on est d'accord. Je pense qu'au niveau Serie A, on a fait.
Vous m'entendez ou pas?
Oui, c'est bon.
Ouais. Non, mais je voulais en fait aussi rappeler, revenir sur le. Sur le la rentrée des deux jeunes là.
Ouais, Strasser et Darmian.
Voilà, Darmian qui est bon, je complète ce qu'a dit Daniel Bravo à l'antenne parce que bon il connaissait vraiment pas grand chose malheureusement. Darmian ouais donc qui est un jeune qui fait partie du groupe pro depuis un an désormais plus ou moins et c'est le capitaine de la Primavera, c'est-à-dire des moins de 20 ans. Et puis donc il a fait ses débuts enfin cette saison finalement toutes que compétitions confondues, il est rentré en jeu à la place d'Antonini et enfin Rodney Strasser qui est un numéro 6 qui joue en Primavera, origine du Sierra Leone et qui est comparé à Sissoko dans ses caractéristiques, dans sa carrure, dans sa manière de jouer. Voilà, donc c'était sympa de voir ces deux jeunes.
D'ailleurs, il est rentré en Serie A 10 minutes après, il s'est pris son premier carton jaune.
Voilà, ouais. Donc comme quoi c'est un joueur qui hésite pas à aller au charbon. On m'annonce qu'il y a. Vas-y Arnaud, je te repasse. Non, je finis avec le classement.
Attends, il y avait une petite question sur la Roma de Marvolo.
Ah oui, pardon.
Bah oui, en fait, parce que ce que tu viens de dire, ça me rappelle. Alors, qu'est-ce qu'il devient le Barroso, là, le petit milieu de terrain.
Alors, Ahmed Barroso, il.
Italien de je sais plus quelle d'origine.
Ouais. Alors, Roma, Ahmed Barroso, Ghanéen. Il est ghanéen, il me semble. Il me semble pas qu'il soit italien. Il est, il me semble qu'il est à Sienne, si je me trompe pas. Et il avait été, la Roma l'avait pris, il y a peut-être 2-3 saisons de ça. Il avait prêté une saison à Galatasaray, il me semble. C'était un joueur en fait. Oui. Si tu veux, il était en Serie B à Rimini. Il avait impressionné.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Voilà, si bien qu'il y avait le Milan qui était même sur dessus quoi. Et après, malheureusement, il s'est blessé, il s'est fait les croisés, une blessure super grave. Enfin, il s'est pété le genou, quoi, ou même bien la jambe, je crois, et ça l'a un peu coupé dans son élan. La Roma l'avait récupéré, elle avait essayé de le faire jouer, mais au bout de 6 mois, je crois qu'il était parti à Galatasaray, et puis après, le voilà maintenant prêt ou peut-être bien vendu à Sienne, voilà, si vous voulez savoir ce qu'il devenait.
Ouais, parce qu'en fait, je sais que quand il était arrivé, c'est ça, il était courtisé par les par pas mal d'équipes, on disait que c'était un super joueur, et j'entends jamais parler de lui, donc je me suis dit un peu, ça me surprenait un peu, quoi, c'est tout.
Ouais, non, il a un peu disparu de la
circulation.
Ouais, la circulation.
Okay. Merci bon. À vous.
Ben, je pense qu'on a fini sur la Serie A. On a été assez complet, assez synthétique. Je rappelle le classement. Donc Inter toujours qui se pavane dans la première place avec 42 points. Le suivi derrière à 6 points avec 36 points à la Juventus de Turin. Troisième le Milan AC et quatrième la Viola qui vient compléter le podium des quatre. Napoli cinquième qui perd sa place dans sa place à la Ligue des Champions. Genoa sixième, Lazio septième, Catania et Atalanta occupent respectivement 8e et 9e place, et Palermo 10e qui occupe la première partie du classement. À la juste tout en haut de la seconde partie du classement apparaît la AS Roma avec 23 points. L'Udinese est juste derrière avec 22 points. S'ensuit des équipes tout en dessous de 20 points, Cagliari, la Sampdoria, Siena, Bologna, Torino, Lecce, Reggina et Chievo. Chievo avec 9 petits points qui assemble déjà, d'ores et déjà condamné. Voilà. Bon, et ben je vais vous dire à tout de suite dans une minute. On a des petits problèmes techniques, on revient, on passe une petite musique et on revient tout de suite après. Merci d'être encore avec nous, 1h11, à tout de suite.
Bonsoir à tous, voilà, Arnaud et Helvetia nous ont laissé la place, nous nous retrouvons entre survivants après plus de 2 heures d'émission, elle est rescapée, voilà, il reste comme d'habitude l'ami Marvolo, voilà, je te laisse refaire un petit coucou, tu le mérites bien.
Bonsoir à tous.
Et puis Pierrot qui comme tout... les week-ends attend son tour bien sagement.
À noter d'ailleurs une spéciale dédicace pour lui, Pierrot, parce que c'est quand même le survivor ultime qui est toujours là, qui stocke toutes les émissions pour remplacer une pendant 5 minutes. Alors franchement, félicitations.
On se demande ce qu'il fait pendant ce temps-là. Enfin, bah, peut-être qu'il se rase les poils, parce que bon, il est portugais, donc il en a beaucoup, alors ça doit l'occuper. Enfin bref, non, c'est la fatigue, excusez-moi. Voilà,
d'ailleurs, Pierrot, on a une question des auditeurs, alors c'est machine électrique ou cire?
Voilà, son la petit cire, côté... La cire. Ouais. Et comment dire, et oui, petite dédicace aussi à Dan qui est en off, hein, donc voilà, c'est la petite touche juif hébraïque de l'émission. Il fait toujours du bien aussi. Voilà, Pierrot, fais-toi plaisir. Nous, on est là pour te poser des questions.
Ouais, de la 12e journée de Liga Sagres, que je vais renommer 12e journée de Ligue 1, avec un superbe total de 10 buts en 7 matchs. Sachant que les buts, ils ont été marqués dans les matchs qui n'étaient pas télévisés, ce qui était vraiment pratique pour apprécier le football. Je commence un vendredi soir... avec le Naval 9e contre Guimarães 8e, avec un superbe 0-0. Hein, je crois que je vais rien dire. Hein. Faut noter quand même l'intelligence des entraîneurs qui ont vu que c'est un match de merde. Ils ont essayé de faire rentrer des joueurs, mais c'est pas de chance. C'est des joueurs qui servent à rien. Donc on termine sur un 0-0. Puis Dédicace aux journaux qui, je me demande comment ils ont fait pour noter les gardiens. C'était un exploit, ça aussi. Alors ensuite, le lendemain, on a un super Braga 7ème contre Rio Ave 13ème. On se dit Braga, ouais, la 4ème équipe du Portugal, ils vont nous enflammer contre une équipe de bas de tableau. Et ben non, là aussi on a vu un match à deux balles, avec peu d'action. Braga a gagné 1-0 grâce à un but de Renteria sur corner, hein, le joueur qui est passé à Strasbourg l'an dernier. Donc, rien à dire non plus. Hein. Vas-y, Marvel. Bah
d'ailleurs, en fait, une petite question, s'il te plaît, sur Braga. Ils sont bien qualifiés en UEFA, non?
Ouais, ouais, ils sont en 16ème.
Et ils jouent qui?
Le Standard de Liège.
Ça devrait passer, ouais. Ou qu'est-ce que tu,
ah comment non, tu vois ça, toi? On en a parlé l'autre fois et Pierrot était d'accord, le Standard est une équipe à prendre au sérieux quand même, Pierrot.
J'ai vu qu'ils avaient fini premier, mais...
Ouais.
D'accord, bah, c'était juste cette question.
Je vais faire ma dédicace à Willy34. Coupe UEFA a quand même sorti la chose suivante. La Jupiler League est un championnat relevé, plus que le Portugal. Bon, qui c'est qui veut réagir à ça? Parce que
en gros, c'est en gros, il fait du Ukrainia 38 qui nous expliquait que le Dynamo de Kiev c'était l'égal de Chelsea, Manchester, tout ça. Non. D'accord, voilà. Je vois.
L'équipe qui a zéro club en Ligue des Champions face à un championnat qui a deux équipes en huitième de finale, je crois que tout est dit. Je voulais juste en parler parce que il y a quand même des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Voilà. Ensuite. Magnifique transition pour reparler d'un match absolument pourri. Le Sporting Portugal qui recevait l'Académica Coimbra.
0-0. Oh, mais dis-moi juste, j'ai une question comme ça avant, excuse-moi de te couper. J'ai l'impression que quand même, ils sont pas. Le portugais a l'air d'être relativement.
Ligue 1.
Ou pas? Non, je sais pas, je joue à beaucoup de 0. Là, j'ai une page avec tes résultats et ça n'a pas l'air non plus de marquer souvent, non?
Ouais, bah, les stats en général, ouais, elles sont pas très élevées. C'est deux buts ou un petit peu moins, mais là, vraiment, ce week-end, c'était vraiment encore pire. Et bah, surtout, je disais que les matchs avec le plus de buts, c'est Belenenses Trofens 3-2, Lechuin Gestrella Madora 1-1 et Passos de Ferreira Setúbal 2-0. Et donc, ces matchs-là, ils étaient pas télévisés. Donc, finalement, les buts, on les a pas vus.
C'est génial.
Bah, pour s'exporter, c'est parfait, ça, hein, vraiment. Donc, c'est le Sporting Portugal, soi-disant candidat au titre, et rappelons qu'il fait partie des 16 meilleures équipes d'Europe. Une attaque très mauvaise, hein, Elder Postiga qui a été mauvais, Romagnoli aussi. Bon, bah, Paulo Bento, il a fait rentrer Diallo et Vukcevic, mais bon, c'est un peu tard, c'est vrai qu'ils ont... Je dirais pas qu'ils ont été bons, ils ont juste été moins mauvais que les autres. Oh, là non plus, je vais parler quand même de... Ouais, Marvolo, sur Romagnoli.
Ouais, c'est ça. Alors, il donne quoi ce jour-là? Parce que moi, je me rappelle à l'époque de San Lorenzo, on disait que c'était le futur grand meneur de l'Argentine. Bon, depuis le temps plutôt, ben, on est redescendu de notre nuage. Mais c'est quoi? C'est un bon pro en Liga Sagres. Ça donne quoi c'est quoi son niveau de jeu, quoi, en gros?
Rien. Ouais, comme d'accord. Jeu. Non, mais disons que dans d'autres clubs, il serait pas mauvais, mais au milieu des joueurs du Sporting, il fait un peu tâche. Hein. Surtout que Paulo Bento, il renonce pas à le faire jouer, sachant que sur le banc, il y a Simon Vukcevic qui a 22 ans, est un joueur énorme et qui n'est que remplaçant. C'est du gâchis.
Celui qui était au Partizan, Vukcevic?
Oui, il me semble, oui.
D'accord. Non, mais pour défendre Romagnoli, faut juste pas oublier que le gars, dont on parlait tout à l'heure de Barroso, ben, lui aussi c'est pareil. Il a il s'est niqué le genou, les croisés, donc, depuis, malheureusement, il a jamais réussi à avoir le niveau qu'il avait avant, mais c'est dommage parce que lui aussi, franchement, il aurait pu devenir un très très grand joueur.
Ouais, enfin, à Benfica, il y a Mentoras qui a plus de genou et lui, il joue pas par contre. Il y a quand même des mesures à prendre. Un joueur qui a pas le niveau comme ça, bon, ok, en Ligue des Champions, on le voit pas, mais en championnat, c'est un peu gênant, surtout quand on voit qu'il y a 0-0 et qu'on vise le titre, parce que là, le Sporting, je les vois pas faire quelque chose cette année. Hein. Déjà, la Ligue des Champions l'année prochaine, je commence à en douter avec le parcours de l'échouin. Voilà. Donc je vais quand même souligner le match extraordinaire de leur gardien, hein, Peskovic. Ça, c'est la défense de l'Académica qui a tenu la baraque. Hein. Ils ont fait le match de leur vie. Luis Núñez et Orlando en défense centrale aussi. Bon, je vais quand même dire que 0-0, disons que c'est immérité, mais en même temps, ils ont été tellement nuls que c'est peut-être aussi pour ça, hein, parce que ils ont quand même eu 2 buts refusés, un sur un coup franc qui a été joué rapidement. Bon, là, c'est un peu plus discutable parce que ça arrive que des buts comme ça soient refusés. Mais par contre, Eldar Posiga, lui, a marqué un but avec un hors-jeu imaginaire. Bon, bah, le Sporting a failli gagner en étant mauvais, mais faut que ça serve de leçon un match comme ça, hein. C'est vraiment pas possible. Surtout quand on a envie de battre le Bayern Munich, quoi. On rigole plus, là. Et en championnat, bah, ouais, justement, on rigole pas, nous, hein. Quand on regarde les matchs, bah, voilà, faut le supporter, hein. Ensuite, je vais parler du match de soir, du FC Porto. Là aussi, hein, un bien triste 0-0. Là, par contre, il y a eu du spectacle, hein. Bon, il n'y a pas eu de but, mais on a vu des occasions, des bonnes phases de jeu, des centres. Après, pour parler des joueurs individuellement...
Il y a eu des centres, alors. Vas-y, enchaîne.
C'est pas rentré. Bon, bah, sinon... Le fameux Hulk qu'adore Marvolo, il me semble. Là, ce soir, il a pas été top, hein. Il s'est plus fait remarquer par ses simulations, hein. Une petite dédicace au physique d'Alain Bernard. Je pense qu'ils ont un peu le même physique et il a voulu un peu limiter ce soir. Bon, ce joueur, il est très bon, mais il peut très facilement mal tourner, hein. Ensuite, toujours le.
D'ailleurs, j'ai une question pour ça justement, parce que par rapport à ce que j'ai pu lire moi en Espagne, et je ne sais pas d'ailleurs si tu avais pu corriger ça la dernière fois, mais toi tu expliquais bien que la défense de Porto était pas bonne, et ici les spécialistes
j'ai pas non plus dit ça.
Non, mais pas bonne, on se comprend.
T'as dit qu'elle était à chier du niveau de CFA, quoi, je me rappelle bien.
Non mais tu as compris ce que je veux dire. Tu parlais de la faiblesse un peu de la défense. Et moi, les pros du football portugais en Espagne, donc un seul, il s'appelle Maldonado, mais on l'appelle Maldini.
Alors là, ça me fait plus rire. Je quitte les questions. C'est pour entendre des blasphèmes pareil.
Non, et d'ailleurs, justement, tu vois, c'est ce qu'il avait expliqué. En analysant le jeu de Porto, il avait dit, déjà, il avait commencé par expliquer que Lucho González était énorme. Je pense pas qu'il soit bon cette saison. Non. Ensuite, il avait dit qu'il devrait se méfier du potentiel physique de Hulk. Là, on est d'accord. Et il avait expliqué aussi que la défense était pas terrible. Donc voilà, tu vois. Et je voulais savoir, parce que je me rappelle que tu avais eu un petit peu des critiques lors du SAV, si tu veux, qui disaient qu'en fait, non, que Porto, ça a toujours été une défense de fer et que ça n'a pas changé cette année. Donc,
C'est surtout je visais surtout Rolando. Bon, Rolando, il m'a un peu trompé ça, puisque c'est lui qui a sauvé son équipe à un moment du match. C'est vrai que je dis pas qu'ils sont énormes, mais bon, je vais pas revenir sur ce sujet parce que de toute façon, je vais encore en prendre plein la gueule. Non, mais bon. Ce Maldonado, on va dire que c'est la voix de la raison. Puis voilà.
Ouais, un point pour Maldini.
Ça, je prends.
Ouais, moi qui pensais que Porto exploserait Maritimo, bon, je me suis bien trompé. Hein. Un bon 0-0. Là aussi, on peut dire que ça fait les affaires de Benfica, hein, puisque l'Échouinge n'a pas gagné non plus. D'ailleurs, c'est ça le miracle, c'est que l'Échouinge, qui fait à domicile match nul contre l'Estrela Amadora, du coup, il ne perd absolument aucun point sur le Sporting et le Porto. Ça, c'est peut-être la chance de cette équipe qui la poursuit finalement. Et donc, ça fait les affaires de Benfica qui déjà sera champion avant la fin de l'année 2008. Et puis, donc ils jouent demain. Hein. Ils reçoivent le National da Madeira. Voilà aussi une victoire attendue. C'est à noter l'absence de Reyes, ce qui fait qu'on devrait voir un 4-4-2 porté sur l'axe. Avec un schéma, on devrait revoir Katsouanis, Yebda et Ruben Amorim ensemble, et puis Aymar en numéro 10, et avec deux attaquants qui, j'espère, seront Chouzo et Nuno Gomes, qui me rappellent un peu Micoli Nuno Gomes, qui marchait pas mal. Voilà, et donc le classement. Donc premier Benfica avec un match en retard, 25 points. Deuxième, Lechuinge et Porto, 24 points. Quatrième, Sporting, 23 points. Ensuite, derrière, c'est Largué avec Braga 20 points. Et en bas de tableau, 14e, Rio Ave, 10 points. 15e, Belenenses, 10 points. Et Trofense, 16e, 8 points. Hein, la descente qui va être très serrée aussi, puisque c'est tout bas, n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation. Et l'Estrella Amadora, 2 points. Ainsi que le Passos de Ferreira. Et donc, je termine en dédicace à Lucie, que j'embrasse.
Bah, moi aussi, je l'embrasse.
Bah, donc, spécial Lucie ce soir, on t'embrasse tous.
Voilà, exactement. Et, Dan, lui, ne l'embrasse pas, mais, non, je m'arrête.
Il en pense.
Il en pense. Enfin, moi. Pardon. Ouais, non, mais c'est cool. Moi, j'avais juste une question. Alors, je vais peut-être qu'on te la poser. J'imagine, enfin, j'espère. Qu'est-ce que t'expliques un niveau plus homogène, c'est ça, comme on dit, des équipes, enfin, du championnat par rapport aux années précédentes, où l'écart entre les gros et les présumés petits est beaucoup plus resserré, voire n'existe plus. Quelle est pour toi une raison principale, si tu devais.
Je pense que la raison principale. Par exemple, faut prendre l'exemple de la Coupe d'Europe, il y a 7 clubs portugais au départ, et déjà, rien qu'en phase de poule, il n'y a plus que 2 clubs en UEFA, alors que des petits représentatifs, que derrière, ça suit pas trop. On a 4 clubs, bon, les choix, on verra s'ils sont en Coupe d'Europe. Bon, ce championnat, il doit croître, hein. Ça sera long. D'ailleurs, ça va se ressentir au classement UEFA, où les places européennes
Ouais, tu peux nous expliquer vite fait, qui va en Champions League directement, qui passe par les poules là pour la saison prochaine. Actuellement, ce serait qui ?
Actuellement, il y aurait que le et le deuxième en deuxième tour préliminaire où c'est deuxième en troisième tour et troisième en deuxième tour.
Ok, très bien, très bien. Et le Portugal est placé combien au l'indice UEFA ? Je t'ai coupé, je crois que t'allais le dire.
C'était 8e ou 9e. Hein. Ils sont depuis l'an dernier, ils sont fait doubler par la Roumanie, la Russie et l'Ukraine, il me semble.
Et l'Ukraine, ok. Très bien. Bon, ce sera à suivre avec intérêt la suite de la saison. Moi, avant de conclure cette émission, parce que je crois qu'on a rappelé qu'il y a eu un match, et pour montrer que cette compétition passe quand même assez à travers, c'est le mondial des clubs qui s'est conclu aujourd'hui, et, avec la victoire de Manchester, 1-0, but de Wayne Rooney. Alors que les Mancuniens étaient à 10, si je me trompe pas. Je ne savais plus qui a été expulsé. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette compétition? Moi, j'ai suivi l'an passé parce que le Milan y était. Mais là, j'ai l'impression perçu.
Bah, ouais. Non, mais après, j'ai besoin, en fait, qu'on me confirme un truc. Mais l'an passé, moi, je trouve que l'an passé, c'était un peu mieux organisé. J'avais l'impression d'en entendre parler tout le temps et tout. Alors que cette année, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. C'est et je sais pas si coach. C'est... Non, mais même pas ça. Mais, je dis l'année dernière, pardon, mais je parle aussi quand Liverpool est parti la jouer aussi. Alors que là, non, franchement. Et ça m'a un peu surpris, quoi.
Faut savoir... comment dire, c'est toujours ça, la mule avec ces deux cartes finales et puis les demi-finales. On retrouvait donc Quito, champion d'Amérique du Sud.
La Oud et Quito. Mais pour savoir, c'était quand même faible parce que la Oud et Quito, la Universidad de Quito, donc c'était une équipe qui avait comme star un joueur qui remplaçant maintenant à Huelva ou à Santander. Je suis plus trop sûr. Donc c'est pour vous dire que bon, c'était pas une grosse équipe et même s'ils avaient battu en finale donc en fait ils avaient gagné 3-1 chez eux à Quito, puis ils avaient perdu 3-1 contre le Fluminense de Thiago Neves. Mais moi qui avais vu le match, franchement elle avait eu énormément de chat quoi sur le match retour.
Et comment dire Non, je... oui, Damien Manso, j'en en parlais tout à l'heure aux antennes, quoi, qui est le numéro 10 et le meneur de jeu de cette équipe de couteau, Damien Manso, qui a fait un passage au championnat de France sous les couleurs de Bastia en 2001-2002. Voilà, donc ça illustre aussi encore la relative faiblesse des équipes des représentants sud-américains quand ce n'est pas une équipe argentine ou brésilienne, malheureusement. Et voilà, et sinon, il y avait aussi... les traditionnelles équipes japonaises champion d'Asie, et en fait on a retrouvé l'Adelaide United, qui est un club australien et champion d'Asie ou vice-champion d'Asie depuis que l'Australie est passée, ça c'est vive le foot, depuis que l'Australie fait partie de l'Asie désormais, enfin en tout cas dans les instances footballistiques, et donc ça fait United, je ne sais plus quoi là, champion d'Océanie et représentant de la Nouvelle-Zélande. Voilà, on trouvait deux équipes comme ça relativement faibles. Donc c'est pas non plus ça va pas aider cette compétition à gagner de l'intérêt selon moi. Voilà. Donc je sais pas.
Ben, je vais parler Moi je vais parler en fait d'une autre compète, parce que c'est on en parle très peu ici, même si je suis argentin. En fait, il faut savoir que maintenant le championnat pour donc l'Apertura, donc en fait, on a eu trois équipes à égalité. Et donc ils ont fait la formule que du trophée Silvio Berlusconi, quoi. Trois équipes qui jouent des matchs. San Lorenzo a battu Tigres, et hier Boca Juniors a battu San Lorenzo. Donc en gros, si Boca Juniors gagne son match contre Tigres, ils vont gagner le championnat. Et sinon, si c'est Tigres qui gagne, il faudra revenir au niveau des matchs en fait, des matchs entre eux. Et donc en gros, si Boca Juniors fait match nul ou gagne, ils sont champions. Sinon, c'est San Lorenzo malgré leur défaite contre Boca.
Ok, très bien. Ouais, donc championnat portugais, on rappelle avec cette argentin, pardon, avec cette particularité, comme beaucoup de championnats d'Amérique du Sud, hormis le championnat du Brésil, avoir cette particularité d'être divisé en deux avec l'Apertura et la Clausura. Voilà. Et donc, ouais, voilà. C'est juste pour finir sur le modèle des clubs. Donc c'était ça. C'était un huitième de finale Adélaïde contre Waitakere. Le vainqueur a rencontré le Gamba Osaka. Et de l'autre côté, on avait Al Ahly Le Caire, qui est une équipe qui théoriquement vaut son pesant de cacahuètes. Je déteste cette expression, mais Axel Marvolo, toi, tu dois connaître un peu cette équipe d'Al Ahly.
Je suis plus très sûr. Je pense que c'est bien. Je suis même plus sûr, mais si c'est l'équipe où joue Abou Treika, donc une des stars de l'équipe d'Égypte. Mais non, franchement, ça reste faible. Hein. Il y a eu des champions d'Afrique plus forts. Hein.
Ok, c'est un peu le Real Madrid quand même d'Afrique finalement, je crois qu'ils ont, je sais plus.
Ah oui, oui, ça. Ah, au niveau prestige, oui, effectivement. Ouais. Et c'est le Real Madrid d'Afrique, c'est ça.
Voilà. Ouais, ok, très bien. Et écoutez, voilà, c'était sympa. Je trouve de parler autre chose. Marvolo, si tu voudras parler la rentrée de la suite des compétitions sud-américaines, enfin de ma part, ce serait avec grand plaisir. Voilà, messieurs, on va s'arrêter là.
Et d'ailleurs, je fais juste une petite annonce. Ouais, je fais juste une petite annonce parce qu'on va essayer nous autres malades du ballon rond, de faire quelques émissions pendant les vacances sur la première ligue, parce que là-bas, ça ne s'arrête pas. Donc, pour le Boxing Day et les journées. Donc, on vous communiquera ça dans les plus brefs délais pour vous donner les dates et donc les horaires. Donc voilà, c'était une petite annonce par rapport à ça. Et sinon, une dédicace à mon pote Jed qui m'héberge chez lui depuis quelques temps pour que je puisse faire les émissions avec vous.
Merci Marvolo. On va remercier Pierrot une fois de plus d'avoir été présent.
Bonsoir, hein, merci.
Voilà, c'était Billy et toute la compagnie en direct de Génération Soccers.
Non, c'était Marvolo et toute la compagnie.
Non, c'était Billy et tout. Allez, merci à tous, à bientôt, au revoir.